c'était plus facile pour se garer. Hein. Là, ça avait, c'était un peu compliqué, ce que je ne connais pas du tout. Merci Yves pour cette présentation. Je vais en rajouter une petite partie, c'est-à-dire que à la fin de la semaine, je ne suis plus responsable du Muséum Cuvier. Et à partir du 1er janvier, je suis au Musée d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, en Suisse, pendant un an. Après, on verra. Donc, il faudra venir visiter le Musée d'Histoire Naturelle de Neuchâtel. Oui, c'est un CDD d'un an qui sera peut-être prolongé, même sûrement, je pense. Après, on verra, on décidera.
Neuchâtel-Chalon, c'est un peu plus loin.
Oui. Bon. Donc, il mais il y a du bon chocolat.
Voilà. Mais ça ferait une sortie pour aller à Neuchâtel.
Pourquoi pas. Bien, merci Yves. Donc je vais commencer dans le vif du sujet avec cette histoire des plantes. On peut éteindre peut-être les lumières.
Oui,
parfait. Donc, histoire des plantes. En fait, cette conférence va être coupée en deux parties. Une première partie qui est histoire des plantes ou la paléobotanique, donc l'évolution des plantes au cours des temps géologiques, et puis histoire de plantes, cette fois-ci, et histoire avec un S, où je vous raconterai quelques histoires très particulières de certaines plantes qui nous amèneront à une conclusion qui peut faire réfléchir. Donc, première partie, histoire, l'histoire des plantes, la paléobotanique. On va commencer par l'histoire et l'introduction. Nous verrons ensuite le dévonien. On va successivement passer en revue les différents grands étages de l'histoire de la Terre. Donc le dévonien, vous voyez les âges, c'est environ 416 à 359 millions d'années, et il a duré à lui tout seul 57 millions d'années. Ensuite le carbonifère, toujours au paléozoïque, donc ce qu'on appelle aussi l'ère primaire, 60 millions d'années, 359 à 299 millions d'années, etc. Donc le permien, qui finit l'ère paléozoïque, le trias, qui est le début de l'ère mésozoïque, nous verrons ensuite le jurassique, qui est le milieu du Mésozoïque, le Crétacé, la fin du Mésozoïque, puis l'ère tertiaire, et enfin l'ère quaternaire. Alors, histoire et introduction. Donc, si Georges Cuvier, qui est donc natif de Montbéliard, est l'inventeur le père de la paléontologie scientifique et de la paléontologie des vertébrés, eh bien, c'est Adolphe Brognard, un autre Français, qui est considéré comme le père de la paléobotanique. Alors, c'est une famille de gens célèbres, les Brognard, puisqu'il est le fils du naturaliste Alexandre Brognard, qui était un minéralogiste et qui a travaillé beaucoup avec Georges Cuvier, et le petit-fils de l'architecte, qui a notamment fait le palais Brognard à Paris, Alexandre Théodore. Adolphe Brognard est en fait le premier scientifique à consacrer sa vie uniquement aux plantes fossiles, et sa première publication date de l'âge de 21 ans. Il va élaborer une classification des fossiles de plantes uniquement sur la morphologie des fragments. En effet, la botanique s'est beaucoup fondée sur les organes sexuels des plantes, en partie grâce à Linné, et ce qui a permis de développer toute une classification qui perdure en grande partie encore aujourd'hui. Là, le problème, c'est que les fossiles, ils sont fragmentaires. On n'a jamais d'organes reproducteurs, ou très très rarement, donc il fallait se baser sur autre chose, donc sur la morphologie des fragments. Ça va lui permettre de reconnaître toute une succession de flores majeures au cours des temps géologiques, dans les grandes lignes, et on va les voir successivement, vous verrez que ça s'est beaucoup plus complexifié jusqu'à nos jours, et ça va être très utile pour la stratigraphie, ça va permettre notamment l'essor de l'exploitation du charbon, puisque le charbon découle de la transformation de ces grandes forêts équatoriales qui vivaient il y a très très longtemps, et qui se sont accumulées, pourries, moisies sous étranges d'eau, ce qui a permis leur transformation en charbon. Donc, pour l'exploitation du charbon, le fait de reconnaître les fossiles successifs permettait de savoir qu'on approchait des veines. Alors, si Adolphe Brognard est le plus célèbre des paléobotanistes, puisqu'il en a créé la science, en fait, ils étaient un peu deux. Il y avait aussi Guillaume-Philippe Schimper, qui était un Alsacien, qui lui aussi a beaucoup travaillé sur les fossiles de plantes. Il y en a beaucoup en Alsace, et beaucoup d'exploitations minières en Alsace. Le seul souci, c'est que quand il a fait ses travaux, pour nous Français, il n'était pas Français, il était Prussien. Alors, Adolphe Brognard va avoir des disciples, des gens qui vont le succéder et qui ont laissé leur nom dans l'histoire des sciences, comme Bernard Renault, qui est né à Autun. C'est pas innocent, puisque Autun, il y a un bassin minier, bien entendu. Alors, les paysans le surnommaient le Lycus del Pierre, le lécheur de pierre. S'il y a des géologues dans la salle, ils savent qu'on nous apprend, tout jeune étudiant, à lécher les cailloux avant de les observer. On les casse et après on les lèche. C'est très bon, d'ailleurs. Enfin, ça dépend. Bernard Renault sera spécialiste, bien sûr, des plantes du bassin d'Autun, mais il travaillera toute sa vie pour le Musée d'Histoire Naturelle de Paris. Le second grand nom, c'est François-Cyril Grantery, né en Meurthe-et-Moselle, ingénieur des mines à Saint-Étienne. Il va être spécialiste de la flore fossile de la Loire, là aussi avec un bassin minier conséquent. Il reconstitue à partir des fragments de nombreuses plantes, dont la cordaïte, que nous reverrons par la suite. Une plante célèbre. Le troisième, c'est le nancéen René Zeller, école polytechnique, école des mines aussi, donc c'est les mêmes filières. Il va s'intéresser notamment à l'utilisation des plantes pour la stratigraphie. Il va amplifier le travail de Brognard pour faciliter la recherche des strates de charbon. Et en compagnie de Grantery, notamment, il découvre les veines de charbon de Sainte-Barbe, près de Metz, grâce aux fossiles. Et le dernier, c'est le vilain petit canard. Lui, il n'est pas du tout dans la même filière que les trois autres. C'est Louis-Charles-Joseph Gaston, marquis de Saporta. Déjà, il n'est pas dans les régions centre, est ou nord. Il est dans le sud, dans le Var. Il n'y a pas de bassin de charbon dans le Var. Il est riche, il est veuf très tôt, donc il va pouvoir se consacrer entièrement à sa science, la paléobotanique. Et il va, alors on pourrait le considérer comme un riche farfelu qui se passionne pour les curiosités de la nature. Il n'en est rien, il va publier des ouvrages importants sur la flore fossile de ces régions-là, et il aura même une correspondance abondante avec Charles Darwin. Et comme en plus il est très bon dessinateur, il va lui-même illustrer ses ouvrages qui correspondent à la flore tertiaire d'Aix-en-Provence. Nous y reviendrons aussi dans la première partie. Alors, introduction maintenant. Les premières traces de végétaux, le mot végétal est trop fort, mais d'organismes développant des systèmes de type végétal, c'est 3 milliards 500 millions d'années, c'est-à-dire les tout premiers organes vivants sur notre planète. Les premières traces de vie sont datées de cette époque. Je vous rappelle que la Terre a 4 milliards 700 millions d'années d'existence à peu près, en gros 5 milliards pour faire simple, et donc vous voyez, relativement tôt, 1,5 milliard après son apparition, sa formation, la vie apparaît. Cela fait plus de 3,5 milliards d'années que la vie existe sur Terre en continu, c'est la plus belle histoire que l'on peut raconter à nos enfants. Ce sont des bactéries, des cyanobactéries, donc des bactéries photosynthétiques qui utilisent la lumière du soleil pour créer leur énergie, donc c'est le principe des plantes. Donc ces bactéries, ces cyanobactéries, ont été découvertes en Australie dans les années 80. Elles sont considérées comme les plus anciennes traces de vie sur Terre, et c'est elles qui vont commencer à diffuser l'oxygène, qui servira par la suite pour l'évolution de la vie. C'est des découvertes relativement récentes, une trentaine d'années, c'est très jeune en science, surtout quand ça concerne des thèmes aussi complexes, l'apparition de la vie, et donc beaucoup de sujets font encore débat, bien entendu. Alors, à cette époque-là, il y a 3,5 milliards d'années, la Terre ne ressemblait pas du tout à celle que vous voyez là. Les continents n'étaient pas les mêmes, ils étaient en partie différents, en partie plus petits. Et en fait, les seules parties continentales connues, c'est ce qui est marqué en noir, c'est ce qu'on appelle l'archéen. Voilà les dernières zones encore existantes de nos jours pour rechercher et exploiter les premières traces de vie. Et beaucoup de ces zones sont dans des régions quasiment inexploitables, comme l'Antarctique, comme le Nord, Amérique du Nord, ou le Groenland, où là, il y a de la glace, du froid, ou par exemple le centre de l'Amazonie, où là, c'est des forêts équatoriales, donc impossible d'aller fouiller en dessous, ou très peu. Donc, il y a très, très peu de zones exploitables pour la recherche de ces connaissances. Et depuis 3,5 milliards d'années, la roche a été transformée, souvent métamorphisée, et dans ce cas-là, il n'y a plus aucune trace fossile, même s'il y a eu des organismes auparavant. Alors, il y a aussi l'Afrique du Sud, qui est un gisement important avec l'Australie. Ce sont les deux zones les plus étudiées. Et on va retrouver ces cyanobactéries qui ont fabriqué ce qu'on appelle des stromatolites. Quand on dit qu'on a trouvé des cyanobactéries vieilles de 2,5 millions d'années, comme vous le voyez ici, GA, c'est des giga-années, donc c'est des milliards d'années, donc 2,5 milliards d'années, ou 3 milliards comme tout à l'heure en Australie. En fait, on ne retrouve pas la cyanobactérie. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de partie dure sur la cyanobactérie. Elle a totalement disparu, bien entendu. Par contre, on va retrouver les traces de son activité. Les cyanobactéries, elles existent toujours aujourd'hui, d'autres espèces, mais c'est le même principe. Elles fonctionnent selon le jour et la nuit. Elles vont avoir une activité diurne et une absence d'activité nocturne, ce qui fait que, dans le sédiment, cette variation quotidienne d'activité va se voir. Et ça va donner ce qu'on appelle des stromatolites, des boules en champignons, que vous avez là, par exemple, que vous voilà en fait à quoi ressemblent les cyanobactéries, ça c'est celles qui sont actuelles, mais on arrive à revoir malgré tout la forme qu'elles avaient à cette époque-là, et apparemment ça ressemblerait beaucoup à cette cyanobactérie qui s'appelle Microcystis et qui se met en sphère comme ceci. En voici d'autres, des stromatolites, toujours en Afrique du Sud, datées de 2 milliards et demi d'années, beaucoup plus grandes, plus de 3 mètres de haut, donc des dômes impressionnants, hein, de ces activités de ces stromatolites, les premières traces de vie sur Terre. Au Canada aussi, on a un gisement plus récent, 2 milliards d'années, c'est le gisement de Gunflint, et on voit donc cette activité en coupe des stromatolites, activité couche claire, absence d'activité couche sombre, etc. Donc on a cette succession qui permet de prouver que c'est une activité organique qui a fait cela. Là, la silicification du gisement a permis de retrouver le fossile, l'empreinte de la bactérie, ce qui est exceptionnel, et même plusieurs différentes. On en a une notamment qu'on a appelée Gunflintia minuta, et une autre espèce, Gunflintia grandis, qui ressemble beaucoup à des Rivularia actuels, donc dans leur anatomie tout au moins. Après, ce n'est pas les mêmes, bien entendu, il y a 2 milliards d'années d'évolution entre les deux. Et puis, les stromatolites, comme je vous le disais, existent actuellement. Tout le monde les connaît, parce que tout le monde a déjà vu une carte postale ou une photo de la baie des requins en Australie, donc Shark Bay, où on voit ces espèces de poufs qui sont à faible profondeur d'eau. Eh bien, ces poufs sont des stromatolites actifs. Ça, ce sont des cyanobactéries, donc des procaryotes, c'est-à-dire que le patrimoine génétique est diffusé dans la cellule. Les toutes premières cellules eucaryotes, c'est-à-dire comme les nôtres, avec un noyau qui protège le patrimoine génétique, eh bien, c'est beaucoup plus récent, c'est entre 500 millions d'années et 1 milliard d'années. On peut penser là des découvertes récentes à 2 milliards en Afrique centrale par des compagnies pétrolières françaises, qui aurait trouvé des fossiles vraiment bizarres qui sembleraient être eucaryotes, mais c'est encore très très récent et c'est encore à l'étude. Alors à partir de l'invention de la cellule eucaryote, on va pouvoir développer des structures rigides qui vont permettre aux plantes de sortir de l'eau et de coloniser les continents et surtout de supporter la gravité et la pression atmosphérique, ce qu'elle n'a pas besoin de faire sous l'eau. Donc les premières plantes terrestres sont datées de 450 millions d'années environ. Donc vous voyez, par rapport aux 5 milliards d'années d'existence de la planète, c'est pas beaucoup en fin de compte. Par rapport à nous, bien sûr, c'est immense. C'était des toutes petites plantes, inférieures à 5 cm, pas de feuilles, pas de racines, et on les apparente aux bryophytes. Les bryophytes, c'est les mousses, par exemple. Sinon, la plus ancienne plante vasculaire, donc ayant des cellules qui vont conduire de la sève, des cellules conductrices, eh bien c'est un peu plus jeune de 20 millions d'années, 430 millions d'années au Silurien, c'est Cooksonia. Vous avez le fossile à gauche et sa reconstitution en dessin à droite. Elle a été découverte en 1937 et a été nommée en l'honneur d'Isabelle Clifton Cookson, une femme, ce qui n'est pas fréquent en paléontologie, qui est une science assez misogyne, surtout au 19e et pendant une grande partie du 20e siècle. Et donc, elle porte le nom de cette personne qui va l'étudier. Aujourd'hui, que sait-on de Cooksonia ? Si ce n'est qu'elle a quelques centimètres de hauteur, que c'est une structure très simple, sans feuilles, ni fleurs bien entendu, une tige simple avec quelques embranchements, de temps en temps, une dichotomie, des branches terminées sûrement par ce qu'on suppose être un sporange, avec donc les organes reproducteurs, et alors une énigme scientifique, on n'a toujours pas retrouvé de racines ou de système d'ancrage de cette plante. Elle tenait, elle était aérienne, mais on ne sait pas comment elle tenait. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, à ce jour, comment elle pouvait tenir. On attaque maintenant les périodes géologiques. J'illustre ces périodes à chaque fois par une image introductive qui représente un paysage de l'époque, imaginé dans les années 50-60, donc ça a beaucoup changé depuis, mais par le plus grand artiste géologique de tous les temps, c'est Zdeněk Burian, qui était un Tchèque. On a fait une expo au musée de Montbéliard en 2008 en son honneur. Il est mort en 1985, je crois. Ou 82. Et Zdeněk Burian, tout le monde le connaît parce que tous les ouvrages sur les éditions Grund, vous avez tous connu les éditions Grund, c'est des éditions tchèques. Et dès que ces éditions-là traitaient de paléontologie, histoire du mammouth, histoire de l'évolution humaine, toutes les illustrations, c'était du Zdeněk Burian. Donc vous avez toujours, personne ne connaît son nom, mais tout le monde connaît son œuvre. Le Dévonien, donc, qui se trouve là dans l'échelle des temps, l'échelle des temps en résumé, puisque l'archéen, ici, il est tout petit, alors qu'il fait à lui tout seul les 4 cinquièmes. Eh bien, le Dévonien, c'est là où les innovations botaniques vont se succéder. On verra l'apparition des racines, la division inégale des tiges principales et des tiges latérales, la différenciation des feuilles en simples, des hétérospories aussi, et puis l'invention du cambium, qui est primordial pour créer les arbres, et enfin l'invention de la graine. Tout ça au Dévonien. Alors, on a une plante dévonienne qui est connue depuis le 19e siècle en Écosse, qui est Rhynia, datée de moins 410 millions d'années. Elle est très bien connue parce qu'elle s'est fossilisée dans des terrains siliceux, qui sont toujours des résultats d'explosions volcaniques. Et la silice va permettre de garder la totalité de l'organe, même les parties molles, même les cellules. Et vous voyez une coupe d'une tige de Rhynia de 410 millions d'années. On voit chaque cellule individualisée grâce à la silicification. C'est très rare comme système de fossilisation, mais quand il existe, c'est très important scientifiquement. On a ce même type de plante, mais qui porte un autre nom, Psilophyton, en Belgique et au Canada, aux environs de 400 millions d'années aussi, donc en grosso modo au même moment. Alors cette plante avait des axes latéraux de petite taille, on les voit ici, par exemple, ancêtre des feuilles, c'est ce que l'on pense, hein, on n'en est pas sûr, et à plusieurs nervures divisées. On pense que Psilophyton est l'ancêtre de toutes les plantes vasculaires actuelles, c'est-à-dire les fougères, les prêles, les plantes à graines, sauf les lycophytes, qui auraient une autre origine. Le Dévonien moyen, c'est l'invention de l'arbre grâce au cambium. Le cambium est un tissu qui a un double sens. Vers l'intérieur, il forme du bois, c'est en fait de la sève brute qui monte des racines jusqu'aux feuilles et qui permet le maintien. Et vers l'extérieur, une circulation qui va dans l'autre sens, qui vient des feuilles, c'est la sève élaborée par les feuilles qui va vers les plantes et qui va nourrir l'ensemble de la plante. Donc c'est ce cambium qui se crée et qui va permettre de grandir. Un des tout premiers arbres, c'est Pseudosporocnus, un arbre de 3 à 6 mètres déjà. On l'a rangé dans un groupe qui est un groupe que pour lui, Cladoxylale, qui est un groupe totalement énigmatique qu'on est incapable de regrouper avec les groupes actuels connus ou les groupes fossiles mieux connus. On est au tout début, hein. Enfin, la dernière partie du Dévonien, grâce à l'invention du cambium, en quelques millions d'années, vont se développer les premières forêts et surtout la première graine. Première graine fausse, voilà le premier arbre au sens moderne du terme, Archaeopteryx, pas confondre avec Archaeopteryx, qui est un des premiers oiseaux. Pteryx veut dire plume, pteris veut dire feuille, je crois, ou branche, je ne sais plus exactement. Donc c'est un arbre de 20 à 30 mètres de haut et avec des premières feuilles modernes. Donc on est vraiment au tout début de la botanique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis c'est en Belgique qu'on a découvert la première graine, on lui a donné un nom, Runcaria, puisqu'on ne connaît pas la plante qui l'a portée. Donc si ça se trouve, sa plante est connue par d'autres parties de fossiles mais porte un autre nom. Voilà le fossile et voilà la reconstitution que l'on a faite. C'est une cupule à plusieurs segments qui entoure un tégument. Voilà les cupules à plusieurs segments qui vont entourer un tégument qui est divisé en lobes très étroits, qui forment comme une cage protectrice autour de la gamète femelle qui est ici. De toute l'histoire de la botanique jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est le Dévonien qui est la plus importante. Il n'y a jamais eu autant d'inventions à une autre époque géologique de notre histoire qu'au cours de cette période, qui est la première grande période botanique, le Dévonien. Tout s'est fait au Dévonien, ou presque tout. Le Carbonifère, maintenant, qui est beaucoup plus célèbre que le Dévonien, parce qu'il y a la notion du charbon, bien entendu. Voilà le Carbonifère. On va avoir des végétations luxuriantes, surtout en zone humide, type forêt équatoriale. Et puis, c'est l'origine des grands gisements de charbon du monde. Tous les gisements français et européens sont datés du Carbonifère. On va avoir une évolution de la flore terrestre en province floristique, bien marquée à l'échelle de la planète, pour la première fois. Alors on va se consacrer qu'à l'Europe, bien entendu, puisque c'est les gisements qu'on connaît mieux. Au Carbonifère supérieur européen, on va voir des plantes très célèbres dans tous les musées ou dans toutes les universités. C'est les Sigillaria, les lépidodendrons, ce sont des lycopsides. Alors voilà Sigillaria, le fossile et sa reconstitution, et le lépidodendron. Sur le tronc, on va retrouver ces petites formes géométriques. Ce sont des empreintes foliaires. Pendant toute sa croissance, il va y avoir des feuilles qui le recouvrent, qui vont tomber, et les grandes parties de feuilles vont se retrouver au stade adulte, dans les parties terminales. Mais tout le long de sa croissance, il y aura des feuilles qui vont se croître directement depuis le tronc et qui vont tomber en laissant leur empreinte. Et les sigillaria, c'est une empreinte hexagonale. Le lépidodendron, c'est une empreinte losangique. C'était, quand on était étudiant, ce qu'on retenait pour connaître les noms. C'est des grands arbres, hein, 20 à 40 mètres de haut, par contre relativement fins, 1 mètre de diamètre. Ils représentent à tous les deux 80% de la biomasse végétale du Carbonifère. Donc c'était vraiment les deux arbres les plus importants. Aujourd'hui, les lycopsides existent toujours, mais ils sont représentés par une toute petite plante, les lycopodes, qui sont insignifiantes, de même que les sélaginelles, insignifiantes à la vue, pas du tout scientifiquement bien entendu, mais ce sont des derniers représentants de ces grands groupes que l'on écrase allègrement quand on marche parce qu'on les voit pas, ou quasiment pas. Autre vedette du Carbonifère, les Calamites et les Cordaites. Voilà les Calamites, 10 à 20 mètres de haut. Lui, il a porté plusieurs noms, puisqu'on a donné le nom de Calamites aux parties de tronc, comme ici, avec ces cannelures que l'on retrouve ici. Et puis, ces fossiles-là, les premières fois qu'on les a trouvés, on les appelait annularia. Ça aussi, c'est des fossiles classiques en université, pour les étudiants. En fait, on s'est aperçu que annularia, ce sont les parties terminales de Calamites. Donc annularia, c'est Calamites. De même que les racines aussi portaient un autre nom, c'était les stigmaria. Alors aujourd'hui, les Calamites existent encore, ce sont les prêles de nos petits bas-côtés, nos petits ravins, ces petites plantes qui poussent n'importe où, dans les bas-côtés des routes. Eh bien, les Equisetum, leur nom latin, ce sont les descendants et les derniers descendants des Calamites. D'ailleurs, la structure de croissance est exactement la même, si ce n'est que là, ça fait 30 cm et là, ça fait 20 mètres. Le second, c'est les Cordaites, 30 mètres de haut, donc un arbre encore plus grand. On le connaît par ses fossiles de tronc et par ses feuilles qui étaient des feuilles très longues, jusqu'à 1 mètre de long, la feuille. Vous voyez, c'est ces formes luisantes là, c'était de très très grandes feuilles. Et puis, ces grands arbres, bien sûr, c'était les vedettes et ils avaient la plus grande biomasse, mais en fait, les plantes les plus nombreuses en diversité et puis en sous-bois, c'était les fougères. Les fougères arborescentes et les ptéridospermales. Des fougères qui pouvaient atteindre 8 mètres de haut. Aujourd'hui, les plus grandes font 3 à 4 mètres. Ce sont les Ciathea de nos régions équatoriales. Et puis, il y avait ce groupe des ptéridospermales qui n'existe plus. Ce sont les fougères à graines. Graines entre guillemets, parce que ce n'est pas encore un système de graines moderne. Donc, en voici une avec ces petites pores de graines. Et les graines, on les a retrouvées. Là aussi, chaque graine porte un nom scientifique. C'est très difficile d'associer la graine à la plante, on les a trouvés souvent dissociés. Donc ça finit toujours en carpus, les noms des graines du Carbonifère. Mais ce sont des fausses graines, ce sont des organes reproducteurs des ptéridospermales. Les plus proches parents des ptéridospermales qui existent encore, ce sont les cycasses. Mais ce sont des cousins, ce ne sont pas des descendants directs. Le Permien maintenant. On se rapproche de la fin du Paléozoïque, tous les continents vont se regrouper, ce qui va provoquer des changements climatiques phénoménaux. Donc, le Permien correspond à la fin d'un monde et avec quand même une nouvelle invention qui va passer la crise, ça va être l'invention des conifères qui existe bien sûr encore aujourd'hui. Alors, pendant le Permien, la Pangée finit par se former. Tous les continents se regroupent et vous imaginez les écarts de température qu'il peut y avoir entre les côtes et le centre de ces continents à plus de 10 000 km parfois des premiers océans. Donc, des déserts très chauds et très froids l'hiver sûrement. On a déterminé 4 grandes provinces floristiques. La province gondwanienne, c'est essentiellement les continents de l'hémisphère sud. Hungarienne, c'est la Chine actuelle. Les cathésiennes, c'est la Chine du sud et quelques parties de l'Indo-Océanie. Et puis, l'Eure américaine, qui est la nôtre. C'est celle-ci que nous allons étudier. Chacun de ces 4 provinces ayant des flores différentes. Donc, chez nous, c'est Autun. Le bassin d'Autun est daté du Permien. Il est plus jeune que les bassins carbonifères. Alors, on va y retrouver beaucoup de plantes du Carbonifère, notamment les fougères vont se développer, vont continuer, les fougères à graines aussi, et notamment Calypteris, qui est une fougère à graines, que l'on va retrouver partout. Et avec l'apparition des conifères et prolifération des conifères, en voici deux. Les Walchia et le Lebachia. Le Lebachia piniformis qui ressemblait beaucoup à l'Araucaria d'aujourd'hui dans sa construction, même si ce n'est pas tout à fait le même groupe. À partir de la fin du Permien, vous voyez, entre 299 et 256 millions d'années, 260, on est dans la continuité du Carbonifère, avec l'apparition des conifères. Et puis, les continents se rapprochent, le climat évolue. Quand on se rapproche de 250 millions d'années, eh bien là, on va avoir un assèchement progressif des grands territoires, et donc disparition de la flore carbonifère qui était très, très liée à l'eau. Je ne l'ai pas dit, mais on retrouve les bassins dans des zones qui étaient très riches en eau, bien entendu. Et on voit apparaître sur la fin un nouveau groupe, les ginkgoales, dont le dernier représentant existe encore aujourd'hui, vous le connaissez tous, bien sûr, c'est le ginkgo biloba, ou arbre 40 ou 1000 écus, ça dépend, on va le trouver 40, 1000, 1 million, tout ce que vous voulez. Vers 250 millions d'années, c'est une crise biologique majeure. Après 100 millions d'années de domination, la flore carboniféro-permienne va disparaître définitivement. Et là, vous avez des graphiques, non pas qui correspondent à la disparition des végétaux. On ne connaît pas bien tous les groupes végétaux en quantitatif, on les connaît qu'en qualitatif. En revanche, tous les animaux marins, eux, sont très bien connus en quantitatif. Donc vous avez ici le pourcentage de disparition, de 0 à 60%. Ici, les millions d'années, 542 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a eu 6 grandes crises des pointes, notamment celle-ci, à la fin, à 250 millions d'années, c'est la crise Permien-Trias. Vous avez les grandes périodes géologiques ici. La crise Crétacée-Tertiaire, la disparition des dinosaures, c'est ici, mais vous voyez qu'il y en a d'autres. Ça, c'est pour les genres marins, ça, c'est pour les familles marines, qui est un groupe plus important. Mais on retrouve à chaque fois les mêmes hiatus. Donc, c'est cette fameuse crise qui va voir aussi la disparition de la flore du Carbonifère. 95% des espèces animales marines vont disparaître. La vie a failli disparaître à cette époque. 70% des espèces continentales aussi. Là, on a moins de fossiles. C'est la plus grande extinction de tous les temps. Et on ne sait toujours pas qui est le coupable. On soupçonne bien sûr la Pangée, qui va être un facteur déterminant de cette disparition. Mais il y a eu aussi des super volcans, comme les trappes de Sibérie, qui étaient à la même époque. Donc, c'est des phénomènes convergents qui ont fait que tous les animaux qui ne pouvaient pas s'adapter à ces nouveaux changements climatiques, eh bien, disparaissaient. Alors, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ils ont disparu sûrement sur des milliers, voire des millions d'années, mais un million d'années par rapport à 250, c'est dérisoire. Donc, on passe au Mésozoïque, on est une nouvelle ère, l'ère secondaire avec le Trias, et là, bah, tout doit recommencer. La vie sur Terre, la vie dans les mers, tout va repartir des quelques survivants, et pareil pour la botanique, bien entendu. Donc, on a une nouvelle histoire botanique. On a bien sûr une flore très appauvrie, et en France, le renouveau, c'est les grès des Vosges. Alors, voilà une carrière alsacienne du Bas-Rhin, c'est une carrière de Bundenstein, c'est les grès bigarrés, pour ceux qui connaissent, c'est donc un faciès du Trias, qui a des couleurs très chatoyantes, comme vous pouvez le voir. Cette carrière est en exploitation depuis des décennies. Le Bundenstein fait 500 mètres d'épaisseur. Eh bien, seuls les 20 derniers sont fossilifères. 480 mètres de sédimentation marine n'apportaient aucun fossile. Donc, la vie a mis vraiment un bon moment à repartir, à redémarrer et à recoloniser des milieux. Il faut que l'évolution fasse son rôle. Alors, cette flore qui redémarre est très pauvre. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qui a survécu, c'est-à-dire les fougères, les conifères, les ginkgoales qui étaient récents, tous les deux, et puis les équisétales aussi. Alors, il y a deux plantes qui vont dominer cette flore des Vosges, c'est l'Equisetites mujoti, et puis une fougère, Anomopteris mujoti aussi. Alors, vous voyez que le nom d'espèce est le même, mujoti. C'est en l'honneur d'un docteur, le docteur Jean-Baptiste Mougeot, de Bruyère, dans les Vosges, donc essentiellement de la première partie du 19e siècle, et qui a beaucoup œuvré pour la découverte de ces plantes-là. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, en 1999, il y a eu un ouvrage qui est sorti sur les pas de Jean-Baptiste Mougeot, l'histoire naturelle dans les Vosges. Les grès à Volsia, c'est aussi des grès connus dans les Vosges, en Alsace, et c'est du Trias aussi, mais plus jeune, 243 millions d'années. Là, ça marque vraiment la domination des conifères. On a des conifères archaïques, mais aussi des conifères modernes. On a bien sûr Volsia, qui est un conifère, Volsia hétérophylla, qu'on va trouver dans beaucoup de gisements. Et puis des conifères très particuliers, comme Aetophyllum stipulare, qui est en fait le seul et unique conifère connu à ce jour, herbacé. Il est haut de 1,50 m. Ce n'était pas un arbre, c'était une herbe. Enfin, une herbe au sens taille, pas au sens graminé du terme, bien entendu. Les graminées sont des plantes à fleurs, et celles-là, elles n'existent toujours pas. Le Jurassique, maintenant. avec donc qui est très connu pour le film, pour les dinosaures, etc. Mais c'est surtout le règne des conifères. Là, les conifères vont envahir toute la planète. Donc les dinosaures dominent les terres fermes, les ammonites, qui sont des céphalopodes marins, dominent les mers, et bien les végétaux sont dominés par les gycophères, les conifères, les ginkgos, et en second rang, les cycadales, les bénétidales, qui sont des plantes à allure de palmier, et puis il reste toujours en fond d'écran les fougères, les ptéridophytes, les dicopodes, les prêles, les isoètes. Et un nouveau groupe, les chaetoniales, qui inventent des organes femelles semblables à des carpelles. Mais bon, on ne sait pas si c'est ça. En revanche, dans les mers, c'est curieux, on ne connaît que des algues. On a du mal à trouver des fossiles de plantes. Pourtant, c'est plus facile à se fossiliser dans les mers. Mais apparemment, les plantes ne se sont pas encore développées dans les mers. C'est aussi une époque où on a un gisement célèbre du sud du massif du Jura, dans l'Ain, la flore de Belay, c'est dans le Bugey. C'est daté du Kiméridien, c'est à Serein. Serein était une carrière exploitée pour les calcaires lithographiques, pour l'imprimerie. C'est un calcaire très fin, et il est tellement fin qu'il va garder en empreinte n'importe quoi. Des empreintes de gouttes de pluie, par exemple. Une goutte de pluie peut se fossiliser. Et donc, l'université de Lyon a fouillé pendant plus de 20 ans. J'ai eu la chance de participer à 2 fouilles, et beaucoup de magnifiques fossiles complets ont été trouvés, comme vous le voyez là. Mais tous ces fossiles complets datent du 19e siècle, à l'époque où on exploitait la carrière à la dynamite. Quand on a fouillé avec des petits burins et avec des petits pinceaux, on n'a pas trouvé grand-chose, en fin de compte, parce que, bien sûr, on n'exploitait qu'une surface très étroite. Voilà à quoi devait ressembler Serein, le sud du Jura, il y a 150 millions d'années. Et donc, beaucoup de végétaux ont été trouvés parmi ces fossiles, puisque c'est une lagune, on est proche du continent. Donc voilà différents groupes qui sont illustrés par des fossiles du site de Serein, les conifères, donc un araucaria, des cicadales, des ancêtres des cicas actuels, des ptéridospermales qui n'existent plus aujourd'hui, et la plus célèbre, c'est la zamites, ces grandes feuilles de palmier du groupe des pénétidales. Et ça, j'ai eu la chance de le voir en vrai. C'est, vous voyez ce petit dessin là, c'est en fait un voile algaire qui s'est déchiré sur une paléopente. C'est-à-dire que là, la couche de terrain est à 60% de pendage, donc c'est assez fort, mais les scientifiques ont été capables de dire que à l'époque du vivant de ce voile algaire, eh bien, il y avait une petite pente très faible qui fait que ce voile s'est déchiré. On devine ici le voile qui se plisse. Et ce sont le voile algaire qui s'est fossilisé 150 millions d'années. Ça fait plusieurs mètres de haut, ça. Le Crétacé, maintenant. Le Crétacé, on remonte, c'est une période qui a duré très longtemps. 80 millions d'années à lui tout seul. C'est immense. C'est plus que l'ère tertiaire à lui tout seul, par exemple. Puisqu'il se termine il y a 65 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, il n'y a que ça. Alors, si je vous mets cette image, c'était pour les Montbéliardais, ça, puisqu'en 2006, on avait fait une expo sur fleurs mignonnes à l'envoir. En effet, c'est au Crétacé, pour l'instant, qu'apparaissent les premières fleurs, ce qu'on appelle les angiospermes. Mais il y a beaucoup de fossiles qui tendent à prouver que ça descend dans le Jurassique. Alors voilà la position des continents tels qu'on les imagine au début du Crétacé, voilà à la fin du Crétacé. Donc en 80 millions d'années, les continents se sont séparés, et là on se rapproche des positions actuelles, là on est encore dans une position groupée, et donc on a vraiment des climats très très différents, début et à la fin. Donc, comme je vous disais, c'est l'apparition des fleurs. Aujourd'hui, les angiospermes, qui sont les plantes à fleurs, ou Magnoliphyta, c'est 85% des plantes vasculaires actuelles. Donc, elles dominent totalement la planète. 340 à 430 000 espèces connues à ce jour, beaucoup d'autres à découvrir, et elles ont leurs ovules qui sont enfermés dans une ovaire. La plus vieille connue officiellement, c'est Archaeofructus lianingensis. C'est une plante aquatique, celle-ci, donc on voit apparaître des plantes aquatiques maintenant, pourvue de fleurs, sans calice ni corolle, 125 millions d'années. Donc formation géole, province chinoise du Liaoning. Alors elle appartient, on l'a classée dans l'ordre des nymphéales, qui existe toujours, qui est un des groupes les plus primitifs des plantes à fleurs. Il y a 3 groupes, entre guillemets, primitifs, plutôt dans le sens chronologique du terme, hein, pas dans le sens évolution, puisqu'ils existent toujours. C'est les emborellacées, les ostrabaeleiacées, ça je ne sais pas ce que c'est, et donc les nymphéales. Donc on les dénomine tous les trois sous le sigle ANA. Et on voit la terminaison ici qui, pour les scientifiques, montre que c'est une plante à fleurs. Alors, ça a été publié en 2002, mais depuis, il y a eu d'autres découvertes. Donc, vous voyez, c'est très récent. Hein. Voici d'autres plantes de Archaeofructus plus récentes. Et surtout, d'autres plantes ont été trouvées depuis 2002 qui tendraient à prouver que les fleurs sont encore plus anciennes. Il y a l'Ifructus myrus, découvert en 2011, c'est très récent, dans la formation Yingxian, dans la province chinoise de Liaoning, pareil. Alors celle-ci, elle est datée du Crétacé, toujours, elle est un peu plus jeune, ou pratiquement le même âge, mais elle est eucotylédone. Les eucotylédones sont des angiospermes qui, théoriquement, sont beaucoup plus récents. Donc s'il y a déjà des eucotylédones à cette époque, ça veut dire qu'il y a des monocotylédones avant, qui sont à l'origine des plantes angiospermes. Voilà le groupe des angiospermes tels qu'on le classe aujourd'hui, l'ordre des nymphéales qui est l'ordre primitif, un premier groupe qui est les magnolidés, groupe primitif, un deuxième groupe plus récent des monocotylédones, et enfin les eucotylédones qui sont censés être plus récents. Donc si on a déjà des eucotylédones à 125 millions d'années, eh bien on doit pouvoir trouver ces groupes-là encore plus anciens, 130, 140. D'ailleurs, cette plante-là qui a été découverte en 2010, Xingzhuanantus sinensis, dans la formation de Haifungu, puis je vous donne en mille, dans la province de Liaoning, bien entendu, toutes les découvertes paléontologiques actuelles sont là. Les dinosaures à plumes, c'est là, les plus vieux oiseaux, c'est là. Ça fait 20 ans, 30 ans que maintenant ce gisement est exceptionnel à l'échelle mondiale. Et celle-ci est datée de 160 millions d'années. On fait un bond de 40 millions d'années en arrière, c'est du Jurassique. Alors, ça fait encore débat, hein, c'est pas officiel. Mais certains chercheurs pensent que cette forme-là serait une inflorescence avec plus de 20 unités femelles, à chaque fois une unité femelle disposée en spirale. Chacune serait équivalente à l'ovaire chez les angiospermes modernes. Il y a toujours un débat scientifique pour la classer, mais bon, c'est le début des prochaines découvertes qui vont sûrement montrer que les plantes à fleurs sont datées aux alentours de 150, 160 et peut-être plus. Alors qu'aujourd'hui, officiellement, c'est 120 à peu près. Du coup, notre Crétacé, entre 145 et 112 millions d'années, c'est-à-dire la première partie du Crétacé, eh bien, en Europe, on a une flore qui ressemble encore au Jurassique, avec des fougères, des conifères, des cicadales, des gynkoales, des bénétidales, des chaetonales, et de temps en temps, un peu d'angiospermes qui viennent d'apparaître. En revanche, dès qu'on est dans la deuxième partie, entre 112 et 93, là, les angiospermes dominent déjà, en France, pour la France. Notamment l'île d'Aix, qui est un gisement connu, avec 21 types de fleurs, de feuilles différentes, donc de plantes à fleurs, vous les voyez ici, qui sont datées d'environ 100 millions d'années. Et puis dans la dernière partie du Crétacé, c'est la domination totale des angiospermes. C'est-à-dire en une période géologique, les angiospermes se développent partout. Alors les gisements en France, c'est la Mède dans les Bouches-du-Rhône, avec 16 taxa, des groupes, des espèces différentes de cotylédones, donc des groupes déjà évolués. Donc ça va être des fusains, des viornes, des fagacées, c'est les hêtres, les chênes. Donc des groupes qui existent encore aujourd'hui, dont vous avez quelques représentants là. C'est plus les mêmes espèces, bien entendu. Et puis, grande nouveauté, il y a 90 millions d'années, apparition de l'herbe, les graminées apparaissent, donc dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. C'est leur origine. C'est les poacées. Donc à partir de 90 millions d'années, les dinosaures vont pouvoir tendre la pelouse et jouer au golf. Ou au foot, comme ils veulent. Alors, Charles Darwin, je ne sais plus si j'ai fait la conférence sur Charles Darwin ici, donc j'en ai donc parlé aussi au moment de cette conférence, il évoque un abominable mystery, un mystère abominable en parlant de l'évolution des plantes à fleurs. Voilà, vous avez ici les temps géologiques, ça c'est le Silurien, donc là on est à 450 millions d'années, Silurien, Dévonien, Carbonifère, Permien, donc la crise Permien-Trias, le Trias, le Jurassique, le Crétacé, le Tertiaire aujourd'hui. Voici la courbe d'évolution des plantes à fleurs. Pouf. Enfin, des plantes en général, et en vert des plantes à fleurs. Donc, en très très peu de temps, il y a une rupture et une augmentation. Les angiospermes se développent en 20 millions d'années, ce qui est très peu en géologie, à l'échelle mondiale. Et on ne sait toujours pas pourquoi. Darwin le disait, et aujourd'hui on le dit toujours. C'est toujours un abominable mystère, on ne sait pas pourquoi. On a des hypothèses, bien entendu. Il y a les changements climatiques, l'éclatement de la Pangée qui peut favoriser ce type de plante, pourquoi pas. Il y a surtout sûrement l'efficacité de la coévolution. Tant qu'il n'y a pas de fleurs, ben, il n'y a pas d'insectes pollinisateurs. Il y avait des insectes depuis 300 millions d'années, il y a des insectes. Mais ils n'étaient pas pollinisateurs. Là, il va y avoir une coévolution de ces deux grands groupes dominants, les insectes et les plantes à fleurs, qui vont se favoriser mutuellement. Et il y a aussi le fait que les plantes à fleurs ont une croissance plus rapide. Donc, facilité de coloniser un terrain plus facilement que des plantes non à fleurs. Mais c'est quand même toujours la bouteille à l'encre à l'heure actuelle. Il n'y a pas de consensus pour connaître ce démarrage sur les chapeaux de roue des plantes à fleurs. L'ère tertiaire, maintenant, on se rapproche d'aujourd'hui. On est il y a 63 millions d'années, jusqu'à environ 2 millions d'années. C'est ce qu'on appelle. Alors, l'ère tertiaire n'existe plus en tant qu'ère. On appelle le Cénozoïque de 63 millions d'années à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ère tertiaire, l'ère quaternaire avait été créée pour isoler l'homme du reste et qu'il ait sa propre ère géologique. On a un peu rabaissé le caquet de l'humanité en enlevant ces deux termes. Maintenant, on appartient au Cénozoïque en tant qu'ère. Mais on a quand même notre petit étage de l'Holocène, on y reviendra. Donc l'ère tertiaire, c'est vraiment le règne des plantes à fleurs à l'échelle de la planète. Alors très rapidement, le Paléocène, première époque du Cénozoïque, eh bien on va avoir un climat très humide et tempéré chaud, donc il va favoriser certaines plantes qui vont apparaître et qui dureront encore jusqu'à aujourd'hui. À l'Éocène, on a une période la plus chaude de l'ère tertiaire, c'est à cette époque qu'apparaît la vigne. Voici Vitis cesanensis de la Marne, donc la vigne qui est très importante. Hein, vous avez des dégustations de vin régulières, je crois, dans vos séances. Donc, vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette invention-là, bon, vous mettriez à la bière. L'Oligocène, donc, c'est les premiers refroidissements. C'est notamment la fameuse flore du sud de Aix-en-Provence dessinée par Saporta. Souvenez-vous des dessins de Saporta. Donc, notamment avec le palmier Sabal, dont certains représentants du groupe existent encore. C'est pas le même. Au Miocène, on a un climat un peu plus tempéré. On va avoir les travertins du sud de la France qui vont permettre des dépôts, des eaux vont pouvoir charger de calcaire, vont pouvoir garder en empreinte des feuilles de cette époque-là. Donc c'est des gisements importants. Et puis la dernière ère, dernier étage de l'ère tertiaire, donc c'est le Pliocène. Et lui, on a un climat de plus en plus froid qui va annoncer les glaciations de l'ère quaternaire qui nous concerne. En effet, depuis 2 millions d'années, on vit un rythme incessant de glaciation et de réchauffement, tel qu'on l'a peu connu dans les temps géologiques, même s'il faut faire attention, on connaît des grandes périodes de grand froid sur notre planète, et on pense même qu'au Silurien, je crois, la planète entière était gelée, avec peut-être l'équateur qui laissait apparaître de l'eau. Donc ça, c'est des découvertes assez récentes. Toujours est-il que notre quaternaire est froid dans l'ensemble, et donc cet ex-air va subir deux grands bouleversements. Un, le froid. Deux, l'homme. Quel est le pire? Je vous laisse juger. Pendant l'ère quaternaire, donc, on va voir une vingtaine de cycles glaciaires. Vous connaissez sûrement tous les quatre grandes périodes qu'on citait régulièrement au cours des études, le Ries, le Würm, Mindel, et la première, dont je ne me rappelle plus d'ailleurs le nom. Donc ces quatre grandes, en fait, en affinant beaucoup les études, on s'est aperçu qu'il y en a une vingtaine. Ces quatre grandes correspondent à des pics importants, mais elles ne sont pas seules. Il y en a une vingtaine, et elles vont se succéder sur moins de 2 millions d'années, ce qui est très très rapide. D'ailleurs, cette succession de froid de chaud va beaucoup bouleverser les flores de l'ère tertiaire, ce qui fait que voici les seules espèces qui ont résisté, et qui datent de l'ère tertiaire, en tant qu'espèce, pas en tant que groupe. C'est l'arbousier, le laurier des bois, le laurier noble, le lierre, le houx, l'if et le vurnetin. C'est les seules espèces qui ont un peu plus de 2 millions d'existences en tant qu'espèces biologiques. Les autres sont toutes nouvelles, de groupes préexistants bien entendu, mais qui ont eu du mal à résister. Alors comment se passaient ces cycles? Bien, si on part d'une période froide et sèche de type steppe toundra, donc la Sibérie, là on aura des plantes de type échédra, chénopodiacées, des graminées, des armoises, donc des plantes rases, des petites plantes. Le réchauffement commence, on commence à voir apparaître des bosquets de genévriers, de pins et puis des petits bouleaux rabougris. Le réchauffement continue, on est à son maximum, on a des chênes et des noisetiers. Puis, on entame un refroidissement avec des charmes, des hêtres et des sapins. On a une fin du refroidissement avec des épicéas, des pins et des bouleaux, on revient un peu à ce stade-là et on finit là, et ainsi de suite pendant 20 fois. Voilà donc pour cette première partie qui était l'histoire des plantes au cours des temps géologiques. Je vous l'accorde, c'était très très rapide. Et donc la deuxième partie va concerner des histoires de plantes. Nous allons voir successivement la mère des plantes à fleurs, la plante à tête de canard, le ginkgo, on va y revenir, les plantes carnivores, les plantes à fourmis, les plantes à sang chaud et la communication des plantes. La mère des plantes à fleurs. Quelle est à l'heure actuelle sur notre planète la plante à fleurs la plus ancienne par rapport à l'évolution? Eh bien, elle se trouve dans un paradis terrestre, plus pour longtemps puisque l'homme y débarque régulièrement, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est le territoire mondial où il y a le plus d'espèces anciennes et le plus d'espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que là, en proportion par rapport au reste. On connaît 3260 espèces de plantes sur la Nouvelle-Calédonie, dont 75% n'existent qu'en Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que l'homme arrivant avec ses plantes, ses poireaux, ses tomates, ses radis, eh bien, ces plantes-là, qui sont aussi très, très rapides à se développer, va très vite éliminer les endémiques, qui n'existent nulle part ailleurs. En effet, cette richesse provient de son isolement. Elle est isolée depuis des millions d'années par des fosses océaniques très importantes et par des courants marins qui interdisent l'arrivée de dépôts, etc., réguliers, de l'Australie ou de l'Asie. Et donc, c'est parmi ces 3260 espèces de plantes qu'on trouve la plus primitive, entre guillemets, mais qui résiste encore aujourd'hui et qui est très importante, vous allez le voir, c'est Amborella trichopoda. Elle a été trouvée par un Français du Musée d'histoire naturelle de Paris à la fin du XIXe siècle, Henri-Ernest Bayon, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Cette plante a des caractères, bien sûr, très anciens. Alors, quels sont ses principaux caractères archaïques? Eh bien, elle a du bois à cellules uniques, qui normalement est le cas des fougères et pas du tout des plantes à fleurs. Elle a du pollen qui est transporté indifféremment par le vent ou par les insectes. Or, les plantes à fleurs se sont vraiment spécialisées avec les insectes et plus du tout, ou très peu, ou de moins en moins par le vent. Elle, c'est indifférencié. Et puis, on a beaucoup de mal à différencier visuellement les fleurs mâles des fleurs femelles qui se ressemblent beaucoup. Et les fleurs femelles qui ont même des étamines fictives. On a dû lui créer une famille unique rien que pour elle, c'est les Amborellacées, et qui est datée d'environ 120-130 millions d'années. Les âges sont différents selon les endroits où j'ai pioché les infos. Le débat scientifique a toujours une marge de manœuvre en termes de datation qui peut aller des fois de 5 à 10 millions d'années. Et comme toutes les plantes très anciennes, si elle a pu traverser tous les temps, c'est qu'elle est très résistante. Et donc elle développe des choses qui peuvent nous intéresser au niveau médecine. Notamment, elle est très active contre la maladie de Chagas. Elle réduit à 80% la maladie de Chagas. Et la plante, elle, c'est-à-dire on n'a pas besoin de synthétiser la molécule de la plante qui détruit le protozoaire de la maladie de Chagas et de l'amplifier comme on le fait d'habitude dans la pharmacopée actuelle. Non, la plante est aussi efficace que le médicament, que les autres médicaments chimiques que l'on possède aujourd'hui. De par son ancienneté. Toutes ces plantes anciennes sont très importantes. On le reverra avec le ginkgo, qui est un fossile vivant aussi, qui est très important au niveau médical. Alors, on reclasse un peu l'évolution des plantes à fleurs. Donc, il y a un groupe, elle apparaît à partir d'un groupe ancestral qui existe toujours, que sont les gymnospermes, donc notamment les conifères, etc. Puis, on a les véritables angiospermes, plantes à fleurs, avec le groupe primitif le plus connu à ce jour. Donc, c'est les Amborellacées, représentées par une seule espèce. Puis les magnolidés, qui sont ces groupes aussi un peu plus développés, très anciens, avec les laurus et puis les magnolias, en titre d'exemple. Ensuite, on a les monocotylédones qui apparaissent. À chaque fois, il y a une divergence génétique qui fait qu'on a un ancêtre commun ici, et puis un groupe de plus en plus récent qui apparaît. Les orchidées, les iris font partie des monocotylédones. Et puis enfin, les eucotylédones, comme les roses ou les astéracées, qui sont les plantes à fleurs les plus modernes au sens chronologique du terme. Il n'y a pas de progrès dans l'évolution, Darwin le disait déjà il y a 150 ans. La plante à tête de canard maintenant. Vous connaissez tous ces plantes, ce sont des ophrys, des orchis, alors il y a moucherons, abeilles, araignées, bourdons, etc. Elles ont toutes un label qui a une forme animale, qui permet d'attirer le mâle croyant que c'est une femelle. Il y a aussi un développement d'odeur très important. Surtout des odeurs qui vont ressembler aux odeurs de la femelle, et la brave abeille mâle ou bourdon mâle va se précipiter, va frénétiquement s'accoupler avec cette fleur et ne va rien récupérer, même pas de nectar. D'ailleurs, ces orchidées ne fabriquent pas ou peu de nectar, et elle va juste récupérer deux petits sacs de pollen sur la tête sans s'en apercevoir, qui va lui permettre de féconder les plantes. Donc vous connaissez tous ce système, ces plantes racoleuses. Eh bien, certaines orchidées sont allées beaucoup plus loin. C'est le cas de l'orchidée canard australienne. Pourquoi canard? Bien, vous le voyez vous-même. Ça ressemble tout à fait à un canard de profil. Paracaleana minor. Alors, elle a la particularité d'être favorisée par le feu. Vous vous souvenez peut-être, il y a de cela maintenant 20 ans, Yellowstone était en feu. Et les autorités ont refusé d'éteindre le feu. Parce que d'une part, ils montraient que depuis des décennies, il n'y avait jamais eu de feu volontaire, et que ce feu qui se dégageait était un feu normal, accidentel, lié à la foudre. Donc il fait partie du cycle de vie, et souvent les incendies naturels favorisent la poussée de plantes qui ne peuvent attendre que ces moments-là pour pousser et pour participer à la vie de la forêt. Donc le feu fait partie, sauf quand bien sûr il est provoqué par l'humain et de manière répétitive, de façon à construire des immeubles dessus. Je viens du sud de la France, c'est un problème très connu, les incendies de forêt, de garrigues, pour après construire, racheter des terrains pauvres et mettre des vignes ou des immeubles. Alors, comment fonctionne cette orchidée? Elle est pollinisée par une guêpe très particulière. Ça, c'est une guêpe du groupe des thymnus. Cette guêpe va rentrer à l'intérieur attirée par des odeurs, sûrement. Et au moment où elle rentre, la tête bascule et l'enferme. C'est un mouvement très rapide. Le mouvement de bascule, c'est 1/10 seconde. Donc, pour une plante, c'est exceptionnel. Et pendant 5 minutes, la pauvre guêpe va être livrée à elle-même. Je ne vous dis pas l'état de panique dans lequel elle sera. Elle va s'agiter dans tous les sens et donc elle va se couvrir de pollen. Au bout de 5 minutes, elle est libérée et elle va se faire avoir ailleurs. Alors, il existe la version flamant rose. C'est le Paraca helena nigrita. Donc, pareil, même type d'orchidée. Le ginkgo, maintenant, le rescapé et son algue. Vous connaissez tous l'histoire de la bombe d'Hiroshima, le 6 août 45, et un des rares survivants de là où il y a eu l'explosion, au plus près de l'explosion, c'est un ginkgo. Je n'ai pas trouvé d'image montrant le ginkgo à l'époque. L'arbre que l'on voit là, je crois que c'est pas le ginkgo. Par contre, celui d'en bas, c'est le ginkgo qui a survécu. Il a été déplanté, il a été replanté en périphérie d'Hiroshima, et un temple a été construit autour de lui. Mais il est toujours vivant, et il a supporté tout ça. Le ginkgo, c'est l'arbre le plus ancien au monde, encore représenté par une espèce. C'est à lui tout seul une espèce, un genre, une famille, un ordre et une classe. Donc il est vraiment unique en son genre. Puis j'ai trouvé ce petit dessin avec le ginkgo qui dit « J'ai connu les dinosaures, moi, gamin, je l'ai vu, la météorite. » Et allez, c'est reparti, papy qui raconte ses histoires. Ben, c'est un peu ça. Il doit faire ça avec les autres, puisqu'on verra que les plantes communiquent entre elles. L'origine du ginkgo, c'est la Chine du sud-est, avec les deux, trois régions dessinées en rouge. Aujourd'hui, il est très très rare à l'état sauvage, voire plus qu'en voie de disparition. Or, du ginkgo, on en achète partout, c'est pas cher, on peut en mettre dans son jardin comme on veut. C'est grâce aux moines bouddhistes japonais et coréens qui les ont régulièrement introduits en Corée et au Japon à partir du 11e, 12e siècle, depuis la Chine. Et c'est à partir des espèces qui ont été domestiquées en Corée et au Japon que l'on a développé aujourd'hui le commerce du ginkgo. Tous les ginkgo actuels du monde proviennent de ceux du Japon et de Corée, plus du tout de ceux de Chine. En fait, le ginkgo ne s'appelle pas ginkgo, son vrai nom c'est Jingyo. Mais en 1712, il arrive en Europe et on se trompe. L'état civil de l'époque avait fait une erreur. C'est ginkgo, c'est un garçon, et est une mauvaise transcription qui a été validée par l'INE. Or, l'INE a validé... La validation de Linné est toujours officielle aujourd'hui. La nomenclature binomiale, on la doit à Carl von Linné. Et donc, c'est ginkgo qu'on utilise et non pas Jingyo, qui est son véritable nom. C'est un arbre très ancien, donc de ce fait très utilisé par la médecine. Dès 3000 ans avant Jésus-Christ, on sait que les Chinois l'utilisaient contre la circulation sanguine, pour stimuler la circulation sanguine, pardon, et pour lutter contre la toux. 1500 ans avant Jésus-Christ, toujours en Chine bien entendu, on l'utilisait pour traiter les désordres inflammatoires. Puis dès qu'on va le domestiquer au Japon et en Corée, des études vont avoir lieu, et dans les années 30, les chimistes japonais isolent des terpènes trilactones, ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est sûrement des molécules très particulières qu'on ne trouve que dans le ginkgo et qu'on a appelé des ginkolides. Elles sont uniques dans le règne végétal. Donc on commence à percevoir l'unicité de cet arbre-là. En 1990, d'ailleurs, ça donne le prix Nobel de chimie à cet Américain, grâce à la synthèse des ginkolides B. Et c'est un élément qui va servir de facteur d'activation plaquettaire et efficace contre l'inflammation des tissus, puis aussi contre les migraines enfantines. Ça soigne tout, en fait, le ginkgo. Quand on étudie ses feuilles, on a 24% de flavonoïdes, qui est un antioxydant, et donc 6% de ginkolides et de bilobalides qui ont été donc par la suite synthétisés. C'est efficace contre des pathologies liées au vieillissement, c'est normal, c'est un arbre qui est le plus vieux, donc lui, Forcément, ça agit pour lui, ça peut agir pour les autres. Et du désordre cardiovasculaire. Là aussi, c'est normal, puisque c'est les maladies qui touchent le plus à partir d'un certain âge. Donc, en résumé, le ginkgo, il a des résistances naturelles aux insectes, aux champignons, à la pollution, qu'elle soit atmosphérique ou industrielle, et bien entendu, jusqu'au nucléaire. Donc, on ne fait pas mieux à ce jour, comme élément vivant sur notre planète, en termes de résistivité. Mais ce n'est pas fini. Bon, vous savez peut-être que le ginkgo, il y a des mâles et des femelles, un arbre mâle, un arbre femelle. Voilà l'arbre femelle, l'arbre mâle. En horticulture, je suppose qu'il n'y a que des mâles, il vaut mieux, parce que ça, ça pue. Il paraît que c'est dégueulasse, l'odeur de ces trucs. Il y a des femelles là ? Ils ont mis des femelles. Ah ben. Bon, ben, quand ça tombe, ça a une odeur assez forte, il paraît. J'ai jamais eu l'occasion de sentir vraiment, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et puis, c'est un arbre qui n'utilise pas les insectes, hein, le pollen est disséminé par le vent. Il a une particularité au niveau de sa reproduction. Ses ovules, que l'on voit ici, accumulent des réserves nutritives sans fécondation. Or, ça, on ne le connaît que chez les oiseaux et les reptiles, qui ne sont pas des végétaux à ma connaissance. Chez les plantes à fleurs, l'ovule ne grossit qu'après la fécondation, et pas avant. Donc ça fait une particularité. D'ailleurs, certains scientifiques voudraient bien classer le ginkgo chez les animaux, ou le rapprocher du règne animal, puisqu'il a une façon de se reproduire qui est plus proche des oiseaux et des reptiles que des autres plantes à fleurs. Mais ce n'est pas fini. Ces nucléoles du noyau sont réticulés comme ceux des animaux, contrairement à ceux des autres végétaux. Et puis c'est toujours pas fini. Dernière découverte en date, il y a une vingtaine d'années, à l'université de Tours, on a découvert une petite algue verte, unicellulaire, eucaryote, à l'intérieur des cellules du ginkgo. Donc c'est une symbiose, une endosymbiose, qui est unique et inconnue à ce jour, entre une entre une algue verte eucaryote, pas une cyanobactérie, pardon, entre une algue eucaryote et un eucaryote végétal supérieur, entre guillemets. On voit ici une photo où les algues sont visibles, elles sont là, elles se développent au moment où les cellules de la feuille commencent à se nécroser, c'est-à-dire quand la feuille va mourir. Donc sûrement pour partir et pour aller coloniser ou se mettre en relation avec d'autres cellules. C'est une symbiose, hein, c'est pas un parasite. Le ginkgo n'en subit aucune conséquence, au contraire, il doit en récupérer un bienfait. Alors cette algue a été déterminée, c'est une Coccomyxa. C'est une algue qui est connue par ailleurs pour être justement une algue parasite, mais des lichens et des bivalves. Donc génétiquement, enfin historiquement et géologiquement, c'est sûrement une algue qui a parasité le ginkgo au cours des temps géologiques et qui a été progressivement assimilée par le ginkgo pour servir de symbiose. On a beaucoup de cas comme ça où des parasites finissent par devenir des bons copains, voire des fournisseurs d'énergie, fournisseurs de digestion, etc., etc. Voilà pour le ginkgo qui est vraiment un arbre fabuleux. Les plantes carnivores maintenant. Alors on va les trouver dans des milieux pauvres en nutriments. Là où on n'y aura pas de substance azotée qui permet par les racines de nourrir la plante. Donc la plante est obligée de trouver d'autres gisements de nourriture par les insectes notamment. Alors ces milieux, ils sont connus, ce sont les tourbières. Et notre région Franche-Comté, la région Franche-Comté, les zones de Jura, etc., où les Vosges sont très riches en tourbières. On est parmi les toutes dernières tourbières de France avec le Massif Central et puis quelques-unes éparpillées. Mais on est la zone la plus riche, donc on a un rôle très important de protection de ces milieux qui sont très particuliers. La plus vieille plante carnivore connue peut-être, c'est Archaeamphora longicervia d'une 120 millions d'années. Donc vous voyez que je vous disais les millions d'années, j'ai repris ce qui était énoncé dans les textes que j'ai trouvés. On est quasiment au début des plantes officielles, donc c'est peut-être 110 ou 115. Il y a vraiment une marge d'erreur de 5 à 10 millions d'années. Mais en gros, c'est dans ces périodes-là. Et donc, c'est celle-ci. Voilà sa reconstitution et elle ressemble beaucoup au Sarracenia, que vous connaissez sûrement, hein, les Sarracenia purpura, qui est nord-américaine, mais qu'on retrouve naturalisée en Irlande et puis dans le Jura. Dans la tourbière de Frane, il y a des pieds qui se développent. Il y a eu beaucoup de débats pour savoir s'il fallait les arracher, parce qu'a priori, c'est un apport volontaire. Là, je crois qu'elles y sont toujours. Hein. Et même, elle s'est développée de plus en plus. Alors, être carnivore, ça veut dire quoi ? Ben, c'est pas simple. Être carnivore, ça veut dire qu'il faut attirer sa proie. Ensuite, il faut pouvoir la capturer. Il faut pouvoir la tuer. Il faut pouvoir la digérer. Et il faut pouvoir l'assimiler. Eh bien, dans le monde des plantes, on va trouver des plantes qui font les 5, des plantes qui n'en font 4, qui n'en font que 3, qui n'en font 2 ou qui n'en font qu'un. On a tous les cas de figure progressifs dans différents groupes de plantes. Alors, les proies, quand elles sont totalement digérées et assimilées, eh bien, elles apportent les trois quarts de la nourriture en azote et au sucre de la plante. Donc, ce n'est pas un petit dessert, hein. C'est vraiment très, très primordial pour la plante. Comment attirer les proies, qui sont essentiellement des insectes? Eh bien, il y a deux façons de les attirer, soit de manière optique, en voici une, c'est la Darlingtonia californica. En fait, l'insecte va arriver, va rentrer là, et comme le dessus est transparent, pour s'échapper, il va sans arrêt essayer de partir par en haut. Il finira par s'épuiser, tomber là, où là, il y aura le liquide qui va le dissoudre. Autre attracteur optique, c'est la beauté, la couleur. Voici une Drosera. Alors, j'aurais pu mettre les Droseras que vous connaissez tous. Hein. On a trois espèces, je crois, en France, dans la flore européenne. Ça, c'est une belle Drosera australienne. Mais dont le principe est le même, des petites billes gluantes rouges qui attirent par leur côté brillant, luisant, comme des gouttes de miella. Ou celle-ci, qui est magnifique, Drosophyllum lusitanicum, un arbrisseau ibérique et marocain qui se déroule. Donc ça, ce sont les attracteurs optiques. Mais il existe aussi les attracteurs olfactifs. Voici une plante qui n'a aucune couleur, qui n'a pas de... On la devine pas, on la voit pas, enfin... Elle ne peut pas attirer les insectes par des couleurs vives. En revanche, elle va les attirer par des odeurs. C'est les Nepenthes, Nepenthes piriformis de Sumatra, ou celle-ci, qui est la Nepenthes alata des Philippines. Celle-ci a été découverte au XIXe siècle par deux grands savants du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, messieurs Jacob et Delafont. Mais vous allez voir, il y a une suite. Il y a une suite. C'est pas gratuit. Alors, attracteurs, donc on a vu des attracteurs optiques et des attracteurs olfactifs. Il existe aussi des attracteurs actifs et des attracteurs passifs. Le passif, c'est les Nepenthes, par exemple, où l'animal qui est attiré par les odeurs va venir ici pour lécher le suc, le liquide qui va l'intéresser, mais ce bord est glissant. Donc, au bout d'un moment, elle va glisser et tomber. Et donc, la plante ne bougera pas, ne fera aucun mouvement pour précipiter la chute. En revanche, chez les actifs, là, il y a un mouvement de la plante. Vous connaissez tous les dionées, donc c'est piège de mâchoire. Alors, il faut savoir que la dionée, donc il y a ces fameux piquants ici que vous avez là, mais sur les belles parties roses que vous avez là, vous avez 5 ou 6 petits poils qui sont répartis sur cette surface et de même de l'autre côté. Si la mouche touche 2 poils en moins de 30 secondes, il y a la fermeture. Sinon, il faut en toucher encore 2 autres dans 30 secondes. Si l'écart de temps est trop long, elle ne se referme pas. Donc c'est un double contact, il y a une sécurité, double contact en moins de 30 secondes, et là, la dionée se referme. Elle va se refermer, se serrer, enchâsser l'animal. Si l'animal est puissant, il va pouvoir s'enfuir, mais généralement pas s'il est de petite taille. Et il va y avoir un joint mucilagineux qui va se développer pour étanchéifier la suture ici. Quand ce sera étanche, au bout de quelques heures, les deux parties vont se remplir du liquide digestif qui va dissoudre l'animal. Au bout de quelques jours, enfin 3 semaines plus tard, ça se réouvre, il ne reste plus que la chitine, les ailes, quelques parties dégradées, non digérées de la mouche. Autre plante à attracteur actif, c'est une plante de nos mares, que vous connaissez peut-être, c'est l'utricularia. J'en ai dans ma mare, donc régulièrement tous les ans, j'ai ces belles petites fleurs jaunes qui sortent. Mais en dessous, le piège, il est là. Ce sont ces petites ramifications avec ces petites billes, toutes petites, hein, ça fait 1 ou 2 millimètres. En fait, ce sont des poches vides et avec des filaments qui sortent. Dès qu'un filament est touché par un organisme ou un organite, eh bien, il y a un mécanisme d'aspiration très rapide, 1/50 de seconde. C'est le mouvement végétal le plus rapide connu à ce jour. En 1/50 de seconde, il y a remplissage de la cavité avec le petit organisme qui a dû toucher. Et donc, c'est comme ça que va digérer l'utriculaire. Voilà, c'est un petit crustacé qui s'est fait piéger. Ça fait encore une fois quelques millimètres à peine. Alors, comme je vous le disais, il y a des plantes qui ne vont pas au bout du processus. On les appelle les plantes pré-carnivores. Ce sont des plantes qui n'ont pas d'enzymes pour digérer, les pauvres. Elles ne savent pas digérer toutes seules. Elles sont obligées d'avoir une symbiose avec des bactéries. Mais ça, on connaît bien, puisqu'on fait ça tout le temps. Nous non plus, nous n'avons pas les enzymes pour digérer. Ce sont des êtres vivants différents de nous, qui ne s'appellent pas Homo sapiens, elles ont leur propre nom, c'est même pas des eucaryotes puisque c'est des bactéries, donc c'est des procaryotes, et qui vivent tout le temps dans notre corps pour nous aider à digérer. À l'heure actuelle, on en recense plusieurs centaines d'espèces différentes dans notre corps. On est de véritables zoos, à nous tout seuls, mais chaque espèce animale a ses symbioses avec des bactéries. Donc les plantes aussi, ces plantes vont développer des collaborations avec ces bactéries, des symbioses donc, qui vont permettre de digérer. Mais il y en a une un peu particulière. C'est cette plante-là qui est australienne, je crois, Roridula gorgonias. Elle a des poils glanduleux qui permettent de capturer des insectes, des mouches, des guêpes, etc. Problème, elle n'a pas d'enzymes pour digérer. Et elle n'a rien pour digérer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle n'a pas d'enzymes, elle n'a pas de bactéries, mais il y a des punaises. Elle ne mange pas les punaises, mais les punaises, elles, vont venir manger les proies qui sont collées. Et les punaises, dévorant les pauvres mouches et guêpes collées, vont déféquer sur la plante, et c'est les déjections des punaises qui vont nourrir la plante. On y revient, Jacobé de Lafont. Mais c'est pas fini. Toujours dans le scatologique, les toilettes à Tupaya. Ça, c'est la plus grande népenthèse connue, Népenthèse raja. Elle fait 35 cm de haut, donc énorme, 18 cm de large, 3,5 litres d'eau et 2,5 litres de liquide digestif. Donc là, il y a les insectes, mais des petits rongeurs doivent se faire avoir, des petits reptiles aussi, voire des petites chauves-souris. Néanmoins, un gros animal, le Tupaya, vient régulièrement lécher le bord du couvercle qui est riche en produits sucrés. Et pendant qu'il se délecte de ça, eh bien, il défèque dans le népenthès et la népenthès se nourrit des déjections. C'est les déjections du Tupaya qui les nourrissent. Donc vous voyez, Jacobé de Lafont, ils auraient pu découvrir ça. Les plantes, maintenant, un peu carnivores, pas tout à, on ne peut pas dire carnivores puisque ce n'est pas de la viande, mais mangeuses de champignons. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent comme découverte, enfin du XXe siècle. La plante était connue depuis très longtemps. D'ailleurs, on l'appelait la suspin, puisqu'on pensait qu'elle se nourrissait des racines des pins au pied duquel elle poussait. Hypopitis monotropa. C'est une plante qui n'a pas de chlorophylle, donc, comme il en existe beaucoup d'autres, elles sont parasites. Mais aujourd'hui, on sait qu'elles ne parasitent pas les autres plantes. Donc, en 1820, on finit par découvrir qu'elle ne se nourrit pas des racines du pin, donc que son nom n'est pas approprié. En 1840, on observe des filaments de champignons qui relient le pin au suspin, et donc, on comprend qu'il s'agit sûrement de quelque chose qu'on venait de découvrir, qui est la mycorhize, le champignon qui favorise l'échange entre une plante et une plante de type soit parasite, soit pas du tout, comme les orchidées, par exemple. Les orchidées sont... Quand on déterre une orchidée dans la nature, ce qui est interdit, il ne faut pas oublier de ramasser les champignons mycéliens qui sont en dessous et prendre l'arbre qui est à côté, parce qu'elle est reliée directement à lui. Sinon, elle aura du mal à repousser dans le jardin. 1881, on comprend, donc, on finit par comprendre, de croire tout au moins, que c'est le champignon, enfin que le champignon nourrit la plante. Si, on finit par comprendre que c'est le champignon qui nourrit la plante et non pas le pin qui est relié au suspin par le champignon. Et ce n'est qu'en 1960 qu'on a la preuve finale, le suspin est parasite du champignon. Il va manger le champignon alors que le champignon il n'a pas envie. Normalement une mycorhize, c'est ce que j'expliquais, donc classiquement le champignon apporte l'eau et les sels minéraux et reçoit en retour des sucres. Ici la plante prend tout. Aujourd'hui, en voici d'autres de ces plantes qui mangent du champignon, Sarcodes sanguinea, une éricacée d'Amérique du Nord, et on en connaît 400 espèces, dont 50% sont des orchidées, qui se nourrissent exclusivement des champignons, qui eux croient faire une bonne affaire de mycorhize et se font avoir, mais c'est trop tard. Les plantes à fourmis, maintenant. L'Amazonie, c'est la région la plus diversifiée en espèces végétales. Les dernières images satellitaires ont permis de compter les arbres. On sait qu'il y a dans la forêt amazonienne 390 milliards d'arbres, à raison de 2 terrains de foot par seconde en moins, donc il faut à chaque fois descendre le chiffre. Mais on en est à 390 milliards d'arbres. Sur ces 390 milliards d'arbres, ils sont représentés par 16 000 espèces différentes. Mais il y a 227 qui dominent et qui représentent près de 90% de la flore d'Amazonie. Et donc les 11 000, 12 000, où il y a 11 000 espèces rares et puis quelques espèces moyennement fréquentes. Donc les 11 000 espèces les plus rares représentent à eux tout seuls à peine 0,12% des arbres de l'Amazonie. Et pourtant, de temps en temps, dans des endroits bien précis de la forêt amazonienne, on a des zones comme ça, de plusieurs dizaines de mètres carrés, voire plus, où il n'y a qu'une seule espèce végétale. Aucune autre. Les locaux l'ont appelé d'ailleurs le jardin du diable. Cette plante, elle appartient à la famille des Rubiacées, c'est Duroia hirsuta. Et le coupable de cet état de fait, c'est une fourmi, c'est Myrmelachista schumanni. En effet, la plante Duroia est formée de grandes domacies, ce qu'on appelle les domacies, c'est-à-dire des renflements des tiges qui sont creuses et qui permettent l'installation pratique de colonies de fourmis. Une colonie de fourmis dans ces plantes-là peut comporter plus de 3 millions d'ouvrières, 15 000 reines, et donc peut exister successivement pendant plus de 800 ans. Donc de grandes colonies, mais uniquement dans les domacies de cet arbre-là. Et donc, ces fourmis, à longueur de journée, sortent, et dès qu'une plante étrangère pousse, elles injectent du produit formique pour détruire la plante. C'est, à l'heure actuelle, le seul insecte connu à utiliser un herbicide. Donc vous voyez, on n'est pas le seul coupable, hein, les fourmis aussi font pareil. Alors cette fourmi est accessoirement appelée lemon ant, parce que quand on mange les larves, elle a un goût de, les petites larves blanches là, elle a un goût de citron. Moi j'ai goûté des fourmis en larves qui avaient un goût d'huître. C'était très bon. Mais bon, j'avais pas faim, j'en ai goûté que deux. J'étais tout petit. Leonardoxia africana. Un fabacé, un arbuste endémique du Cameroun cette fois-ci. Lui aussi a des renflements, donc des domacies, qui vont servir à accueillir des fourmis par des petites ouvertures que la plante crée elle-même. Tout ça, c'est créé par la plante. La fourmi ne fait rien si ce n'est d'aménager l'intérieur de la domacie comme il l'entend. Cette fourmi, c'est Petalomyrmex phylax, qui est une toute petite fourmi claire. La fourmi est petite, 2 à 3 mm à peine, peu agressive, donc elle ne va pas défendre son territoire, mais elle a de la chance puisque seule sa reine est de taille suffisamment petite pour rentrer par l'ouverture de la domacie. Donc seule cette espèce peut pénétrer dans les domacies, tout au moins des jeunes arbres de Leonardoxia africana. Donc cette symbiose est exclusive. Si la plante n'existe plus, enfin elle sera mangée si la fourmi n'est pas là pour la protéger, et la fourmi n'existera plus si la plante disparaît. Néanmoins, cette fourmi a plusieurs problèmes. Il existe une espèce de fourmi très rare, heureusement pour elle, Catholacus mackayi, qui est parasite de la plante et qui va détruire la plante. Mais elle est très agressive, elle peut faire fuir Petalomyrmex phylax, mais heureusement, elle est plus grande, et donc les reines ne peuvent pas rentrer dans les ouvertures des domacies, sauf quand la plante est très vieille, où là, la domacie s'est légèrement agrandie. Mais comme elle est à la fin de sa vie, c'est pas trop grave si la fourmi accélère le processus et il y aura toujours les jeunes arbres pour accueillir toujours Petalomyrmex phylax. Deuxième question, on s'est aperçu que les feuilles matures n'étaient pas régulièrement patrouillées par les fourmis de Petalomyrmex phylax qui sont censées surveiller l'ensemble de la plante. Pourtant, elles ne sont pas plus attaquées. En revanche, les fourmis vont surtout patrouiller régulièrement sur les jeunes feuilles et les feuilles qui sont attaquées. Et donc là, le patrouillage est systématique. Alors pourquoi cette sélection? Comment la fourmi se rend compte des zones qu'elle doit fouiller et pas les autres? Grâce à un composé volatile que dégage la plante, qui est proche de l'aspirine, c'est le salicylate de méthyle, qui est un antiseptique. Et donc c'est ce volatile qui attire le Petalomyrmex, et vous l'avez compris, ce volatile est dégagé par la plante, par les jeunes plantes, mais aussi quand la plante est attaquée. Donc la plante envoie un signal, une communication, envers la fourmi pour qu'elle vienne la défendre. Ça évite à la fourmi de s'éparpiller dans les zones où il n'y a rien à défendre. Alors on a synthétisé cette molécule et on en a fait des propriétés médicales, donc apparemment des propriétés antidouleurs, antifièvres. Apparemment, c'est aussi utilisé pour des arômes alimentaires. Bon, je n'ai jamais essayé, notamment l'essence de Wintergreen, si vous connaissez. Son odeur très forte, très appréciée. Bon, j'ai trouvé ça sur Internet, bien entendu, mais je n'ai pas essayé. Dernière question concernant cette fourmi. D'habitude, les fourmis élèvent des insectes, ou des cochenilles, ou des pucerons. Vous le voyez souvent sur les rosiers, sur les arbres fruitiers, etc. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Dès que des pucerons ou des cochenilles s'installent, les fourmis les virent. Elles ne les mangent même pas, elles les virent. Elle les enlève. Donc, elle ne se nourrit pas du miella ou de cette source alimentaire. En revanche, on a découvert que Pétalo Myrmex élevait un champignon sur ses propres excréments. Et elle se nourrissait du champignon. Donc ça, on connaît très bien ce système-là chez beaucoup de fourmis qu'on appelle les fourmis ATA, de zone équatoriale et tropicale, donc en Guadeloupe, notamment en Martinique. Ce sont des fourmis qui vont découper des feuilles, vous avez forcément vu ça à la télé ou dans des reportages ou dans les ouvrages, elles vont découper des feuilles qu'elles transportent à l'intérieur de la fourmilière, elles ne sont pas herbivores pour autant, elles confient ces fragments de feuilles à d'autres fourmis qui vont les broyer, les mâchouiller, mélanger avec de la salive, les accumuler, et l'humidité, le fait d'avoir mâchouillé ces feuilles et l'humidité va développer un champignon unique dans ces fourmilières dont elles vont se nourrir. Donc c'est ce qu'on appelle les fourmis champignonistes. Eh bien, Pentalo Myrmex phylax est une fourmi champignoniste aussi. Alors, autre cas de plante à fleurs, Barteria fistulosa, qui est un petit arbre d'Afrique. Ses branches sont très renflées, comme toujours, et vides, creuses, pour accueillir une autre espèce de fourmi. Cette fois-ci, c'est Tetraponera aetiops. C'est tout le contraire de la précédente. C'est une grosse fourmi très agressive, et sa piqûre est très douloureuse, même pour les humains. D'ailleurs, quand les humains voient ça, ils ont l'intelligence, entre guillemets, de s'en servir. Et les populations locales ont longtemps utilisé ces arbres pour punir les femmes adultères. Jamais d'hommes adultères, apparemment, hein, a priori. Donc, je sais pas. Et donc, ils les attachaient à l'arbre. Vous imaginez un peu la douleur que devaient subir ces pauvres femmes. Donc, il en a gardé le nom. Hein, c'est l'arbre à adultère, le Barteria fistulosa. Les plantes à sang chaud, maintenant. Alors ça, c'est beaucoup plus surprenant. C'est quoi l'homéothermie, le fait de créer sa chaleur? Donc c'est un terme qui s'applique à des organismes dont le milieu intérieur conserve une température corporelle constante, indépendamment du milieu extérieur. Que vous allez au pôle Nord ou à l'équateur, vous aurez chaud, vous aurez froid, mais à l'intérieur de votre corps, la température sera toujours la même. C'est ça l'homéothermie. On sait que les mammifères, tous les mammifères sont homéothermes, tous les oiseaux sont homéothermes, et de plus en plus d'espèces de dinosaures, on découvre qu'ils étaient homéothermes, et peut-être même l'ensemble du groupe. D'ailleurs, les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est pas pour rien. Eh bien, il existe aussi des plantes homéothermes. C'est essentiellement des arômes chez nous. L'arôme maculatum, le goût est acheté. Alors, on appelle ça la thermogenèse végétale, pour pas mélanger les végétaux et les animaux. Hein. On est supérieurs, eux, c'est des plantes. Hein. Donc, faudrait pas qu'ils portent les mêmes noms que nous, quand même. Ce serait honteux. Celui, le premier à avoir découvert cette homéothermie végétale, c'est Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Donc, il publie ça en 1777 dans la Flore française. Et voilà ce qu'il dit. Lorsque les chatons fleuris de cette plante, donc l'arôme italicum, ont acquis un certain état de développement ou de perfection, époque où peut-être s'opère la fécondation des fleurs dont ils sont garnis, ces chatons deviennent alors chauds, au point de paraître presque brûlants. Et ne sont point du tout à la température des autres corps qui ont la même exposition de l'air. Donc c'est typiquement de l'homéothermie. À l'heure actuelle, on connaît 9 familles végétales où certaines espèces produisent de la chaleur. Donc vous les avez là. La seule qui nous concerne, nous, en Europe, c'est les aracées. Enfin, on a de ces cas-là en Europe, c'est les aracées. 126 genres, 3300 espèces. Mais il y a un genre en Europe, c'est l'arôme, dans les régions tempérées. Et c'est le seul, donc, chez nous, qui produit cette chaleur. Si on découpe un arôme, voilà ce que ça donne. Vous avez, donc c'est ce qu'on appelle le spadis, l'ensemble, vous avez des fleurs stériles filamenteuses qui servent surtout à bloquer les insectes en dessous pour les empêcher de partir pas trop rapidement pour qu'ils puissent se charger de pollen. Vous avez les fleurs mâles au-dessus, les fleurs femelles en dessous, et l'appendice stérile qui, en fait, c'est lui qui va produire de la chaleur. La température de cet organe peut arriver jusqu'à 45 degrés Celsius, ce qui est immense, hein. Et ce, pendant plusieurs jours. Alors, pourquoi et comment? Comment? Ben, c'est tout simplement production d'une molécule particulière. Donc, c'est l'acide salicylique, toujours très proche de l'aspirine, d'ailleurs, découverte en 1987. Elle va être déclenchée par la variation de la longueur du jour et de la nuit, qui va déclencher cela au sein de la plante. C'est la molécule qui a servi à créer l'aspirine. Alors, c'est marrant, l'aspirine, ça sert à soigner la fièvre, alors que là, justement, ça augmente la température de la plante. Donc, c'est un peu l'inverse. Pourquoi, maintenant? Eh bien, Lamarck l'avait supposé, et il avait raison, c'est pour favoriser la reproduction via les insectes. En effet, cette chaleur va attirer des insectes qui vont rester là. Il fait bon, il fait chaud, pourquoi partir? Donc, ils vont se nourrir, Ils vont s'accoupler là et ils vont ensuite quand même finir par repartir pour féconder une autre plombe. Notamment beaucoup de hannetons et beaucoup de mouches. C'est les animaux qui sont le plus attirés. Et donc il y a des odeurs qui sont dégagées et la chaleur dégagée qui les attire. Ce que vous voyez là, c'est des traces de brûlures. La plante même subit les brûlures de sa propre température. Alors, autre possibilité, ça permet aussi de faire fondre la neige avant tout le monde. Par exemple, le chou puant, lui, il n'atteint pas 45 degrés, il atteint à peine 21 à 26 degrés. Mais comme le milieu extérieur est à moins 15, ça fait 40 degrés d'écart. Et ce, pendant 3 semaines. Donc c'est vraiment impressionnant. Alors, on pense qu'il y a une relation entre la thermogenèse des plantes et le gigantisme. En effet, on connaît la thermogenèse, c'est les plus grandes plantes au monde, donc les arômes. C'est l'arôme titan, ça c'est celui du jardin botanique de Bâle, qui a fleuri 2 années consécutivement, en 2012 et en 2013. 2 mètres 30 de haut. Ça c'est donc la photo d'un copain qui avait assisté à cette floraison, qui dure très peu de temps. Et puis, une fleur que vous connaissez bien, c'est la plus grande fleur en largeur, c'est la Rafflesia arnoldi, qui est parasitaire et qui surtout attire les mouches par une odeur de viande pourrie. Et en fait, on pense que quand un cadavre de mammifère qui va dégager des odeurs et de puanteurs pour attirer les mouches, dégage aussi de la chaleur. La putréfaction dégage de la chaleur. Donc on pense que le dégagement de la chaleur est lié à ce système de reproduction en essayant d'attirer des animaux qui s'intéressent aux cadavres, en fait. La communication des plantes, maintenant. Alors d'abord, une première histoire qui est l'acacia et le coudou. C'est pas une fable de La Fontaine. Dans les années, tout début des années 80, l'Afrique du Sud, bien sûr, vous connaissez les parcs, et notamment le parc Kruger, qui est un immense parc, mais il existe beaucoup de petits parcs privés, à faible territoire. Et un éleveur, un jour, s'aperçoit que dans son petit parc qu'il avait créé quelques années auparavant, eh bien, il va découvrir des dizaines de coudous morts. Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas de traces de blessures, ils n'ont pas été... il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il appelle des vétérinaires pour analyser le cadavre. Et on s'aperçoit que l'animal a été empoisonné, mais pas par des produits chimiques humains. Le coupable, c'est l'acacia. Il faut savoir que le coudou se nourrit exclusivement d'acacia, ou quasiment. Et c'est pourtant sa nourriture favorite depuis des milliers d'années qui va le tuer. Alors, est-ce que ce sont les épines qui vont perforer l'estomac ? Pas du tout, il est tellement habitué à le manger que ça ne le gêne pas. Mais en revanche, quand un acacia commence à être attaqué par des coudous, en quelques heures, 2 heures, il va augmenter par 2,5 fois sa teneur en tanin au niveau des feuilles. Et le tanin, par contre, est un poison qui empoisonne le coudou. Donc, le coudou, normalement, il commence à manger cet acacia, et puis, au bout d'une demi-heure, il va en manger un autre plus loin. Donc, il ne sera jamais malade. Mais là, dans ce cas-là, il mourrait. Pourquoi ? Donc, déjà, on s'aperçoit que l'acacia diffuse du tanin, et en plus, il prévient tous les acacias qui sont autour de lui. Il dégage une molécule à plusieurs mètres, qui permet de prévenir les autres arbres qui ne sont pas encore attaqués par des coudous. Donc des arbres non attaqués vont pouvoir développer du tanin avant même d'être attaqués, prévenus par le copain qui, lui, se fait manger. Et ça se fait à une distance de 6 mètres à peu près. Quand le territoire est grand, il n'y a aucun souci. Quand le territoire est petit, très vite, tous les acacias sont empoisonnés et donc les coudous finissent par mourir. C'est ce qui est arrivé. Donc voilà, dans la nature ou dans les grands parcs comme Kruger, les coudous changent d'arbre à contresens du vent, pas n'importe quel sens, dès que le goût commence à devenir mauvais au niveau des feuilles. Ils se sont habitués à ça. Par contre, dans un enclos, les quelques acacias qui sont là seront tous les uns à 6 mètres des autres et donc vont tous devenir empoisonnés. Et on a même vu des coudous qui ont franchi des barrières de 2,50 mètres de haut, ce qu'ils ne faisaient jamais pour s'enfuir, sinon ils mourraient de faim ou ils mourraient empoisonnés. Donc depuis, les petits parcs sont interdits. Et les petits parcs ont plusieurs, ou alors ils ont des petits parcs, mais régulièrement ils changent les coudous de place. Ils font des couloirs, des corridors pour laisser partir les coudous dans un autre parc. Ça, c'est la communication entre les plantes elles-mêmes d'une même espèce. Nous sommes aussi capables de parler à des gens de notre propre espèce, même si parmi la planète, on a du mal à se comprendre entre nous. Les plantes, elles font mieux. Elles communiquent avec les insectes. Ça, on n'a toujours pas réussi à le faire. On n'est même pas capable de communiquer avec les singes, qui sont les animaux les plus proches de nous. Alors avec des insectes, les plantes le font. Notamment celle-là, qui est très connue, puisque c'est le tabac. Là, c'est le tabac sauvage d'Amérique du Nord et du Sud. Elle se fait Dès que les plantes arrivent dans le désert et se mettent à fleurir, à feuillir et à fleurir, elle se fait attaquer par des myriades d'insectes, des coléoptères, des espèces de petites sauterelles, des grillons, etc. Elle se fait dévorer dans tous les sens. Dès qu'elle est attaquée, elle envoie un signal à ses racines qui se mettent à produire de la nicotine. Et en quelques heures, quelques dizaines de minutes, quelques heures, une feuille peut contenir 5 à 10 mg de nicotine, soit l'équivalent de 8 à 10 cigarettes. Faites fumer 10 cigarettes à Jiminy Cricket, vous allez voir ses conseils à l'arrivée. C'est pas gagné, là. Donc, les insectes sont complètement drogués et tombent. Soit ils meurent, rythme cardiaque accéléré, etc. Soit ils tombent, ils sont anesthésiés complètement. Soit ils ont le temps de partir ailleurs et la plante est sauvée par sa propre nicotine. Mais, la nature est bien faite, il y a quand même un insecte qui adore le tabac et qui le fume régulièrement, ça ne le dérange pas. D'ailleurs, il porte le nom, c'est le sphinx du tabac, ou c'est plutôt sa chenille. Sa chenille n'est absolument pas gênée par la nicotine. Donc, elle va, elle, tranquillement dévorer le tabac. Sauf que là, la plante a un deuxième système de communication, et c'est là qu'elle communique avec les insectes. Quand elle voit que la nicotine ne marche pas, dès qu'elle est attaquée par la chenille, la salive de la chenille prévient la plante, le système chimique de la salive, fait agir la plante différemment et la plante se met à produire une hormone volatile, l'acide jasmonique, qui attire une guêpe qui, elle, parasite la chenille. Donc la plante appelle à l'aide une guêpe qui va pondre dans la chenille et cette chenille va continuer à dévorer pendant quelques jours la plante, certes, mais très vite, les larves vont naître à l'intérieur de la chenille, vont dévorer la chenille de l'intérieur alors qu'elle est vivante, en commençant par les parties les moins nobles pour éviter qu'elle meure, il faut garder le garde-manger frais, et vont finir par attaquer les parties vitales, et là, la chenille finira par mourir. Mais elle ne deviendra jamais un papillon, et elle n'aura jamais d'autres chenilles. Et donc, ça permet de limiter les populations de sphinx du tabac, et donc de limiter leur attaque sur les plantes de type tabac. Ce système de communication, c'est très récent, ces études. On le découvre chez le chou, le maïs, la tomate aussi, qui ont des systèmes de techniques de communication un peu pareils. Et on a découvert en 2010 que lorsqu'une tomate tombe malade, un pied de tomate tombe malade, elle envoie un message à ses voisines par les champignons mycorhiziens, justement. D'où l'intérêt souvent de ne pas trop labourer son champ ou son terrain, parce que vous cassez toute la flore et la mycorhize du sédiment et vous empêchez ce développement d'informations entre les plantes. Du coup, vous êtes obligé de compenser avec de l'engrais. Il ne faut quasiment pas labourer son terrain, il faut arracher les plantes que l'on ne veut pas à la main avec les racines. Bon courage. Alors la communication des plantes, enfin c'est ce que je fais moi, mais j'ai un petit terrain. La communication des plantes, c'est un système qui est beaucoup étudié à Montbéliard, à l'université de Montbéliard. C'est des travaux qui sont menés depuis 2008 par Geneviève Chapuiseau, qui est maître de conférence là-bas. Et elle travaille sur les épicéas d'altitude, d'épicéas. Ces épicéas, en sous-bois, ce sont des myrtilles, des Vaccinum myrtillus. Or, par endroit, il n'y a pas d'épicéas, il n'y a que de la myrtille. La majorité du cas, il y a les grands épicéas, puis vous le voyez, les myrtilles qui vont entre. Et puis, de temps en temps, il y a des plages où il n'y a que des myrtilles, il n'y a pas d'épicéas. En étudiant de plus près, ils se sont aperçus que la myrtille produisait des composés polyphénoliques responsables, d'une part, de l'inhibition de la germination des graines d'épicéas, d'autre part, du ralentissement de la croissance, de la symbiose, de la croissance des jeunes plants d'épicéas. Elle va les atrophier et elle va les empêcher de communiquer avec ces champignons mycorhiziens. Donc, ils vont être affaiblis et donc vont mourir plus facilement. Et donc, ainsi, la myrtille va changer les populations de micro-organismes du sol pour ne favoriser qu'elle, en éliminant les graines et les jeunes d'épicéas. Donc, le composé phénolique est bénéfique pour nous, c'est un antioxydant. Donc, le jus de myrtille est très bon pour ses qualités antioxydantes. Donc, on arrive à la conclusion maintenant. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais vous le savez tous, les plantes se déplacent. Hein, le lierre, toutes les plantes qui se développent au sol, les fraisiers, etc. Donc les plantes bougent. Les plantes attirent les insectes et d'autres animaux. Les plantes sont carnivores. Les plantes mangent des champignons. Les plantes communiquent entre elles et communiquent aussi avec les insectes. Et les plantes ont le sang chaud, ou tout au moins certaines. Donc la question, c'est de savoir, les plantes sont-elles encore des végétaux? Eh bien, c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. À l'heure actuelle, au niveau scientifique, le mot végétal, le mot animal, le mot champignon n'existe plus. Il ne signifie rien d'un point de vue scientifique. Nous sommes tous végétaux, animaux et champignons, tels que vous les visualisez, tels qu'on les connaît. On est tous des eucaryotes. On a tous des cellules avec un noyau qui contient le patrimoine génétique. Vous prenez un ginkgo, il a un noyau. Vous prenez une araignée, elle a un noyau dans ses cellules. Donc, elle a les mêmes cellules que nous. Donc, on est tous des eucaryotes. Et l'arbre, tous ces eucaryotes ont une origine commune. C'est ce qu'on appelle les arbres monophylétiques. Au sein de ce grand groupe, qui est très ancien, bien entendu, on a découpé en 9 sous-groupes dont on connaît très bien l'origine. C'est-à-dire que toutes les espèces qu'on met dans ces groupes, on sait qu'ils ont une origine commune très proche, très différente des autres sous-groupes. Il y en a 9. On les appelle monophylétiques. Alors, les 3/4, je ne les connaissais même pas, hein, quand j'ai lu l'article. Je vous montrerai mes références après. Donc, il y a le groupe des alvéolobiontes, des hétérodontes, le groupe des ambozoaires, le groupe des opisthocontes, le groupe des excavés, avec les dicycristés, le groupe lignée verte, donc là, on comprend que c'est du végétal, et le groupe Rhizaria. Je crois que c'est bon, 2, 4, 6... Ah non, il en manque encore, voilà, ça arrive. Le groupe des acrobies. Donc, tout... Les êtres vivants sur notre planète, parmi les 2 millions d'espèces connues à ce jour, qui sont eucaryotes, sont répartis là-dedans. Et au sein de chaque groupe, ils sont génétiquement plus proches du copain que le groupe d'à côté. Si je prends les champignons, tout le monde connaît les champignons. Les champignons sont divisés en 2 grands sous-groupes. Donc, c'est les mycètes, et on les divise en 2 groupes. Eh bien, regardez où se situent les 2 groupes. Là et là. Eumycètes, oomycètes. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les animaux dont nous faisons partie, donc là aussi, on a l'impression que c'est un groupe très homogène, les animaux. Eh bien, voilà les animaux, en bleu. C'est-à-dire que nous, on appartient aux métazoaires, qui sont ici. Génétiquement, nous sommes plus proches de ce champignon que des foraminifères, qui sont des cellules animales marines, ou des radiolaires, ou des ciliés, qui sont des amibes, dont vous connaissez très bien le nom. Génétiquement, on est plus proche de ce champignon-là. Et les végétaux, pour finir, eh bien, eux, c'est pire, ils se divisent dans 5 groupes différents. Nous, dans 4, eux, dans 5. Alors, il y a un groupe uniquement composé de végétaux, c'est la lignée verte, mais tous ne sont pas là. Et vous voyez, par exemple, que les diatomées sont plus proches génétiquement d'un champignon que des autres végétaux. Que chloraracniophytes, plus proche des foraminifères que des autres végétaux, etc. Donc, en science, à l'heure actuelle, le mot végétal, animal, champignon n'existe plus. Déjà, dans animaux, on avait éradiqué le mot poisson, le mot reptile qui ne veut plus rien dire. Quand je vous dis reptile, vous me dites tortue, lézard, serpent et crocodile. Donc, en fait, on peut rajouter les dinosaures, par exemple, qui sont connus de tout le monde. Eh bien, là-dedans, vous avez dinosaures, crocodiles et oiseaux qui forment les archosaures. Les tortues et lézards et serpents, c'est les squamates, forment un autre groupe. Même, je crois que c'est 3 groupes. Donc, ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire que les oiseaux sont génétiquement plus proches du crocodile ou du dinosaure que le dinosaure de la tortue, par exemple. Poissons, c'est pareil. Le groupe des poissons tels qu'on les conçoit, c'est absolument pas monophylétique. C'est plusieurs groupes différents. Il y a les chondrichtiens, les actinoptérygiens, ce qu'on appelle des poissons qui n'en sont pas, comme la lamproie. On la mange, donc on s'intéresse essentiellement à ce qu'on mange d'ailleurs. Donc la lamproie, elle est connue, mais la myxine est moins connue. Eh bien, ce sont des animaux qui sont une forme de poisson qu'on appelle poisson, qui n'en sont pas. D'ailleurs, ils n'ont pas de mâchoire inférieure, donc c'est pas ils n'ont pas des squelettes comme les autres poissons, etc., etc., etc. Alors, il est évident que pendant des décennies encore, on va toujours utiliser ces mots-là. C'est tellement plus clair pour expliquer les choses. Mais quand on arrive à des sujets où on doit montrer les limites de les marges, eh bien, faut arriver à faire comprendre aux gens que ces termes-là sont vulgarisés et vont l'être encore très longtemps, mais ne veulent plus rien dire en science. Voilà mes sources. Donc, j'ai utilisé pour cette conférence essentiellement 3 ouvrages. La Garance voyageuse, si vous la connaissez pas, c'est à ma connaissance la meilleure revue de vulgarisation botanique. Elle est très belle, très agréable à lire, très intéressante. Et il y a quelques années, ils avaient fait un numéro spécial sur la paléobotanique. Je n'ai fait que suivre leur discours. Et puis, pour les curiosités, il y a eu un numéro spécial avec 100 plantes insolites, donc j'en ai récupéré quelques-unes. Et puis, dernièrement, il y a 2 ans, il y a eu un dossier spécial pour la science, uniquement consacré aux végétaux et toutes les dernières découvertes. Donc, notamment, les dernières informations que je vous ai données sur le découpage des groupes viennent de cette revue-là. Puis là, vous avez... Alors, normalement, ce document, quand je le fais à l'Université ouverte à Montbéliard, il me le photocopie sous forme de livret et on le distribue aux auditeurs. Donc, j'avais mis les sites Internet qui permettent de regarder des reportages fabuleux sur les plantes. Mais retenez, tapez sur Internet la force cachée des plantes ou l'aventure de la vie, épisode 9. Vous allez tomber sur YouTube, des reportages qui ont été diffusés sur Arte ou sur d'autres chaînes. Mais ils sont en ligne sur le net. Et vous allez vite voir ces communications des plantes, notamment l'histoire des coudous, et puis aussi l'histoire des dionées qui s'enferment et qui écrasent les insectes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette conférence. Merci bien, merci beaucoup.
Je sens que vous allez poser des questions.
Alors, je vous préviens, je ne suis pas botaniste de formation. Je suis paléontologue et donc vulgarisateur. Donc, j'ai mes limites dans les réponses.
Il y a une question.
Vous avez parlé de la crise de l'Italien.
Oui. On ne sait pas grand-chose. Le problème, c'est que les études quantitatives... De ces crises-là ne peuvent être établies que sur des éléments marins principalement parce que 90% des fossiles sont marins. Un végétal ou un animal terrestre, quand il meurt, il tombe, bah, il ne va pas se conserver. Il va être mangé, dévoré, il va se dissoudre, se détruire. Il ne va pas s'enterrer tout seul. Ou alors il faut qu'il tombe dans un trou, dans un lac ou charrié par des crues. L'avantage des flores du carbonifère dont on sait qu'elles ont disparu, c'est qu'elles elles se sont transformées en charbon justement dans un milieu aqueux, dans des régions lagunaires essentiellement, soit internes, soit proches des mers. Donc là, il y a beaucoup de fossiles. Mais sinon, en règle générale, on a très très peu de sédiments. C'est des spots très éloignés les uns des autres, avec peu d'espèces, très difficiles à quantifier. Il y a dû avoir sûrement des espèces qui ont disparu, ça semble logique, puisque... La crise Crétacé-Tertiaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, bon, on connaît le coupable. Le coupable, c'est la météorite au large du Mexique, au Yucatan. Donc, une météorite de plusieurs centaines de mètres qui a fait un cratère de 300 km de diamètre. Donc, localement, alors quand je dis localement, ça doit être les 5000 à 6000 km aux alentours. Tout meurt dans le 1/10 de seconde qui suit. Après, ça va provoquer un bouleversement climatique par la satellisation des poussières, qui fait que le soleil ne passera plus. Donc il y aura l'hiver total, pas de soleil, pas de photosynthèse, pas de végétaux, sûrement, mais on n'a pas les traces. Et s'il n'y a pas de végétaux, pas d'herbivores, pas de carnassiers. Et donc ce sont les chaînes alimentaires qui vont se détruire, et notamment les chaînes alimentaires où il y a les gros mangeurs, ceux-là ils auront du mal à se nourrir, et les mangeurs spécifiques. Je suis le panda, je m'intéresse qu'à une espèce de bambou. Il y a d'autres espèces autour de moi, mais je ne les vois pas, je mange que celle-là. Celle-là disparaît, je meurs alors qu'il y a des végétaux tout autour de moi, etc. etc. Donc on s'aperçoit que les groupes d'espèces qui ont survécu aux différentes crises, et la crise Crétacé-Tertiaire est la plus connue, grâce aux dinosaures, ce sont des groupes qui étaient peu spécialisés et de petite taille. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas d'animaux à plus de 1 mètre qui résistent. Donc voilà, les végétaux ont forcément subi une crise importante à leur échelle, puisque de toute façon, ils ont participé à l'extinction des herbivores, etc. Mais par contre, on n'a pas les fossiles, ou très très peu. Madame ? J'ai pas vu ça. Les champignons qui produisent la chaleur, je ne sais pas. Et qui produit de la chaleur ? Ah, c'est possible. Là, c'était un article uniquement sur les végétaux, donc j'ai pas cherché plus loin. Mais c'est fort possible. Ouais. Alors, pour quel principe ? Sûrement le même. Sûrement peut-être pour faire la place autour de lui, peut-être. Même s'ils ont d'autres systèmes, les rondes sorcières, etc. On sait que c'est une diffusion chimique qui évite aux plantes de pousser, là où son mycélium pousse. Donc, un ronde sorcière, c'est un seul champignon, en fait, en tant qu'individu. C'est les carpophores qui sont au-dessus, qu'on appelle champignon vulgairement, mais ce n'est pas le champignon, c'est le reproducteur. C'est comme si on appelait humain un pénis. C'est le même principe pour les champignons. Donc le carpophore, c'est la partie visuelle, et le reste du corps de l'individu, c'est le mycélium. Et ce mycélium, il fait un rond, il laisse régulièrement sortir des carpophores, puis il finit, et là, il diffuse un produit chimique qui empêche les plantes de pousser. Donc on voit souvent une différence de couleur végétale qui, pour lui, ça l'arrange, quoi. Ça, je le savais. Par contre, la chaleur, je ne savais pas. Mais c'est fort possible.
Est-ce que quand même le terme de communication n'est pas un peu exagéré dans la mesure où quand on communique, on échange, on comprend. Là, il y a émission de signaux, c'est vrai,
oui,
qui sont reçus. Il y a une réponse. Mais est-ce qu'on peut parler quand même de communication comme nous sommes en train de le faire?
C'est le terme utilisé par les chercheurs. Oui. C'est le terme utilisé par les chercheurs, c'est-à-dire que il faudrait revoir la définition de, au départ de la communication, qui est, comme vous dites, un échange, mais un échange pas forcément par parole. Ça peut être un échange chimique, comme font les fourmis. Et là, c'est le cas, le tabac envoie un signal chimique à une guêpe qui lui répond, quelque part, en venant et en tuant en faisant mourir la chenille. Donc, c'est une forme de communication. C'est bien sûr pas la même que nous, mais la nôtre n'est pas très efficace. C'est-à-dire, la nôtre n'est pas très efficace. C'est-à-dire qu'on se parle. Vous allez partir, on se parle, vous allez partir, et vous reviendrez dans 2 heures, vous n'entendrez plus mes paroles. Je suis une fourmi, vous êtes une fourmi, je laisse une trace chimique de communication disant que là, derrière, il y a de quoi manger, vous revenez dans 2 heures, vous entendez ce que je vous dis, vous allez manger. Donc ils sont beaucoup plus efficaces que nous, les fourmis. Je vous charrie, hein.
Non, je pense pas que c'est ce qui... Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça.
Oui,
il
oui.
A pas dit ça. Après, il nous faut le Descartes des champignons pour ça. Donc on le cherche encore.
Est-ce que vous savez par quel protocole on est passé de rien aux premières bactéries?
Non. Non, non, ça c'est la grande inconnue, l'origine de la vie. Obligatoirement, enfin, les suppositions actuelles tendent à dire qu'on est passé du minéral au vivant, puisqu'on a les mêmes éléments des deux côtés. Donc il suffit de les associer différemment. Mais quel est le facteur qui a associé différemment? On n'en sait rien. Pour une grande partie de la population, c'est divin. Pour une autre partie, c'est géochimique. Mais on ne sait pas. Donc pour l'instant, la question est toujours ouverte. On ne sait toujours pas quelle est l'origine de la vie. Certains disent que c'est un apport extraterrestre par des comètes. Les comètes apportent des éléments. Mais ça ne fait que repousser le problème. C'est-à-dire qu'on le transfère à une autre galaxie. Donc non, on ne sait pas. Il faut en laisser pour les autres.
Monsieur. Bien, je pense que vous aurez un stock de questions énorme pour la prochaine fois où Thierry va revenir.
Hein, il y avait une dernière question, là, peut-être.
Oui.
Une dernière question.
Est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'un jour, les compléments alimentaires qui sont à base de plantes, finalement, seront suffisants pour soigner la totalité des maladies humaines?
Je ne sais pas. Les chiffres actuels, déjà, montrent que on ne soigne véritablement que 20% de la population, ceux qui détiennent 80% des richesses de notre planète, déjà. Et puis, on entend toujours, par provocation, des chercheurs dire que bientôt, on mangera que des méduses ou des algues, ou des choses comme ça. Donc, il faut s'attendre au pire. Mais bon, je n'ai pas la réponse, bien entendu.
Il y a un champignon qui s'appelle le chagrin, qui serait, paraît-il, capable de soigner tous les cancers et toutes les maladies.
Sûrement, de toute façon, on va découvrir de plus en plus. J'ai une anecdote à ce sujet, j'avais lu ça un jour. Les grands groupes de pharmacopées ont leur propre laboratoire de recherche et ils envoient régulièrement des chercheurs de par le monde pour essayer de copier ce que font les chamans des civilisations. Certains le font sérieusement en ne faisant que copier, sans les payer. D'autres, comme certains groupes américains, leur piquent l'idée, la labellisent et obligent les chamans après à payer pour réutiliser ce qu'ils connaissent depuis des milliers d'années. Et ça, c'est une petite parenthèse. Donc, ces groupes pharmaceutiques, un jour, envoient un chercheur en Amérique du Sud et il observe le chaman, il voit que le chaman soigne une maladie avec une plante. Il récolte la plante, il rentre à Paris, il synthétise la plante, il regarde, il trouve l'élément qui va soigner, je ne sais plus, telle maladie ou telle maladie. Il la synthétise, il la multiplie, enfin il fait son boulot, il fait des tests, ça marche pas. Et ça ne marche jamais. Il reprend l'avion, il retourne voir le chaman, et il dit « mais je comprends pas, j'ai pris la même plante que toi, je l'ai synthétisée, je l'ai multipliée avec tous nos moyens technologiques à outrance, nous sommes les plus beaux, les plus grands, les plus intelligents, c'est bien connu, et j'y arrive pas, pourquoi ?» Et le chaman lui répond « à quelle heure as-tu récolté la plante ?» En fonction des heures, déjà, c'est pas les mêmes odeurs qui sont diffusées, c'est pas les mêmes éléments, etc. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont connues, soit par des populations, soit par des animaux. On étudie énormément les singes qui vont se soigner. On a remarqué que des chimpanzés, quand ils étaient malades, s'isolaient et ne mangeaient des plantes qu'ils ne mangent jamais. Donc, on a récupéré des synthèses de ces plantes. La mangouste, avant d'affronter un serpent, va manger une plante. Et on s'est aperçu que cette plante détenait des antivenins. Parce que la mangouste n'est pas protégée contre le venin des serpents. Etc., etc. Des cas comme ça, il y en a des dizaines de plus en plus. On ne connaît pas tout, heureusement. Ouais. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Hop. Dites-moi. Non, ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre, celle-là.
En matière de champignons,
oui.